Je crois que c'est bon. Alors, je vais commencer. S'il vous plaît, monsieur, par vous demander votre nom et puis votre lieu et date de naissance.
Alors, je suis né le 19 mai 1939 à Paris, dans le 17e.
17e. Et est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur votre famille sociale, politique, religieuse?
Ma famille est une famille issue de deux branches, disons, enfin paternelle et maternelle. La branche paternelle était des juifs de Belfort qui n'ont pas voulu devenir allemands au moment de la guerre 1870. Et
Oui.
donc, ils sont partis au Brésil. Mon grand-père était président de la communauté française du Brésil.
Oh, d'accord.
Et avait monté une affaire d'importation au Brésil de produits d'origine française, principalement verrerie, porcelaine, objets de la maison, parfums,
Oui.
qui s'appelait la Casa Grimbach à São Paulo. Donc mon père a fait toutes ses études primaire et secondaire au Brésil,
Oui.
et il est venu en France pour faire son service militaire comme Français. Mon grand-père était très patriote.
C'était dans
Et
quelle année qu'il a fait son service militaire?
moi, je sais plus.
Non, mais
Avant,
avant.
la guerre, bien sûr,
Oui.
avant la guerre mondiale. Mais ensuite, il a rencontré ma mère et donc il est resté en France et il a fait aussi l'armée pendant la guerre de 39. Enfin, était mobilisé pendant la guerre de 39, oui. Voilà.
D'accord. Il a été fait prisonnier
Non,
ou...
non, 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 non. Il a été démobilisé et puis il a retrouvé sa famille. Puis, les événements étant ce qu'ils sont, il s'est découvert juif parce que lui, c'était une famille tout à fait laïque,
Oui.
qui n'avait aucune racine religieuse. En tout cas, pas depuis le Brésil, j'allais dire. Il était d'abord français,
Oui.
exclusivement français, et sans aucune attache religieuse. Du côté de ma mère, c'est une famille d'origine moitié Bordeaux. Je suis de Bordeaux, par conséquent, issu de la communauté portugaise, juive portugaise de Bordeaux, et qui elle-même venait du Portugal. Et puis, au moment de l'Inquisition, donc ça c'est la famille Mendès France,
Oui.
et ma grand-mère donc maternelle, elle était de Strasbourg, et donc voilà, et donc ma mère est donc la sœur de Pierre Mendès France, comme vous le savez probablement,
Oui.
et voilà.
D'accord. Mais votre famille a eu des ennuis sous l'occupation?
Comme toutes les familles juives, ils étaient dans la clandestinité, bien sûr. Et ils ont survécu avec des faux papiers pendant toute la guerre,
À la
en allant
campagne.
ici et là, et avec des faux papiers, en nous confiant, mon frère et moi, à la garde de personnes qui nous ont cachés pendant toute la guerre.
Donc vous personnellement, vous étiez caché
Dans
dans quelle
les
région?
Pyrénées-Orientales, à Font-Romeu, dans un home d'enfants tenu par deux femmes tout à fait exceptionnelles, et avec lesquelles j'ai conservé des contacts jusqu'à ce qu'elles meurent, quoi.
D'accord. Et vous avez eu d'autres personnes dans votre famille qui ont été déportées
Ah
ou...
oui, partie de la famille a été déportée et est morte dans les camps, bien sûr, comme toutes les familles de cette origine, tant du côté de mon père que du côté de ma mère.
D'accord. Mais vous avez plutôt un bon sentiment des Français qui ont aidé les Juifs à ce moment-là?
Un bon sentiment?
Oui.
Ça va de soi.
Oui, non, mais il y a aussi eu des dénonciations,
Sinon, ben oui, ma mère a été dénoncée, elle a pu effectivement s'en sortir par le grande chance. Je ne peux pas vous raconter tout ça, parce que tout ça est d'abord connu, et puis bon, c'est la vie de mes parents, c'est pas la mienne. Donc oui, oui, ils ont été...
Non, mais c'était aussi votre histoire.
Oui, c'est mon histoire, mais enfin...
Votre mémoire.
Oui, mais ça, bon...
D'accord. Alors, pour les études, comment ça s'est passé?
Études, j'ai fait... j'étais très mauvais élève, jusqu'à la première, ensuite... j'ai passé mon bac, je suis devenu étudiant, j'ai étudié du russe, langues orientales, et puis l'économie à Paris 1, enfin Paris 1 qui ne s'appelait pas Paris 1 à l'époque, l'économie à la faculté de droit de Paris. Mais dès le lycée, je suis rentré dans l'activité politique contre la guerre d'Algérie.
Juste un moment sur l'enseignement. Vous étiez au lycée de...
Au lycée Janson de Sailly, dans le 16e. Et là, il y avait un comité antifasciste que j'ai rejoint très tôt, donc j'ai été l'un des animateurs.
Oui.
Avec, je ne sais pas si vous avez interrogé quelqu'un comme ça, avec Dédé Sénic.
Oui, mais André Sénic, oui.
Voilà. Donc un des animateurs de ce comité, c'était André Sénic. Il y avait dans le lycée... Régis Debray, il y avait enfin toutes sortes d'autres qui ensuite ont été plus ou moins des militants du mouvement de façon générale, soit en tant que communiste, soit en tant que autre chose. Jean-Paul Ribes aussi, oui. Et d'autres, enfin bon, qui étaient au lycée à ce moment-là.
D'accord. C'était vers les...
Donc c'est le comité antifasciste qui a été le creuset de comme en plus on était dans un lycée d'extrême droite, enfin, très...
C'était dans le 16e.
16e, avec une préparation à Saint-Cyr, une préparation en polytechnique, une préparation à l'école navale, donc trois préparations à des écoles militaires à l'époque. Et, ben, c'est vrai que la guerre d'Algérie crée au lycée des tensions très 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 fortes.
Oui.
Et donc, bon, le début de la culture politique s'est fait là, dans le comité antifasciste, qui était une bonne, j'allais dire, un bon creuset d'éducation, parce que là, il n'y avait pas de sectarisme. Chrétiens, ça allait des chrétiens progressistes aux communistes. Chrétiens progressistes, c'est une formulation d'aujourd'hui, mais à l'époque... des chrétiens, des jeunes de la GEC ou des étudiants, des lycéens catholiques, dont l'engagement venait souvent par le fait qu'ils avaient un frère, quelqu'un, s'était intéressé par la guerre d'Algérie de façon existentielle, par la présence d'un frère, d'un cousin, d'un ami dans l'armée, qu'ils savaient quelque part un peu ce qui se passait en Algérie, que donc... ils étaient sensibilisés, comme nous l'étions, par la torture, par la recherche de la paix, par la reconnaissance de l'identité algérienne quelque part. Il y avait aussi des Algériens au lycée, donc...
Ah bon?
Oui,
ouais.
Naturellement,
ouais.
Bien sûr.
Ouais.
C'était l'Algérie était française.
Oui, d'accord, d'accord.
Et la bourgeoisie algérienne, musulmane, on voyait plus facilement ses enfants au lycée en France que...
Les Algériens qui étaient contre la guerre ou qui étaient pour l'Algérie française?
Ah ben non, non. Ah ben, y avait forcément les Algériens pour l'Algérie française, ils étaient majoritaires, ça,
oui.
Au lycée. Mais pas les Algériens musulmans.
D'accord.
Mais ceux qui étaient... qui, naturellement, avec lesquels on était en contact.
Il y avait aussi la question du service militaire.
Un peu plus tard, mais pour les plus âgés. Mais ça a commencé très tôt pour la lutte. Je pense que le comité antifasciste, il a dû commencer en 56 ou quelque chose comme ça. Donc très tôt, j'étais très très jeune.
Oui. Mais en général, les gens qui faisaient des études avaient le droit au sursis.
Bien sûr.
Ils faisaient pas le service à 20 ans.
Oui, mais ça, c'est moins au lycée qu'à la fac.
D'accord.
Donc oui, il y en avait sûrement parmi... Moi, je n'ai pas été dans les classes préparatoires, donc ça m'a moins touché. Ça m'a touché à la fac, dès qu'on était, effectivement, se poser pour tous la question, dès qu'on avait l'âge de partir à l'armée, est-ce que je vais à l'armée, est-ce que je suis sursitaire, dans quelles conditions, et puis si j'y vais, est-ce que je pars pas, désertion, insoumission, toutes ces questions, mais se poser à nous comme elles se posaient à l'immense majorité des jeunes de cette époque, puisque le grand problème des jeunes de cette époque, ce qui est difficile à comprendre pour les jeunes d'aujourd'hui, c'était la guerre d'Algérie. Je pars pas, qu'est-ce que je fais, combien de temps? Bon, c'est ce qui explique d'ailleurs la mobilisation de masse contre la guerre d'Algérie, c'est que la jeunesse était majoritairement contre, pas forcément pour des questions politiques, pour aussi des questions existentielles. La durée du service militaire, 27 mois, les dangers, bon, etc. Et puis, l'un dans l'autre, ceci pouvait entraîner une prise de conscience politique que d'autres avaient. Les familles des gens qui avaient vécu la guerre, que ce soit des jeunes communistes par leurs parents ou l'idéologie communiste, ou que ce soit des jeunes juifs, ou des jeunes gaullistes, fils de résistants, étaient naturellement portés à la mobilisation politique sur la torture. C'est la torture qui a été le grand révélateur éthique de l'unité de cette jeunesse pour ceux qui se sont politisés au travers de l'iconographie de la lutte contre le nazisme et de ce que représentait, même si on parlait moins des camps évidemment à cette époque, et de la Shoah, on parlait beaucoup de la résistance, de la lutte des résistants, des tortures, du nazisme, de la bestialité nazie, etc. Et d'apprendre que, quelque part, des militaires français pouvaient utiliser des moyens que nos parents avaient soit subis, soit dénoncés, etc., était intolérable pour ces jeunes. Donc le côté existentiel, évidemment, de cette période qui a été très longue, qui explique que les jeunes qui ont... Moi, je dis souvent, nous avons eu la chance d'avoir une longue guerre d'Algérie qui nous a éduqués politiquement. C'est une horreur de dire ça.
Quelle chance, oui.
Nous avons eu 7 ans de révolte, de compréhension, d'études, de lecture, d'indignation, de manifestation, d'apprentissage à la fois de la pratique militante et puis de l'unité, de la capacité de s'unir avec des gens qui ne pensaient pas de la même façon. Pour un objectif qui était celui de la paix avec le peuple algérien.
Et vous avez eu le sentiment donc que la France avait renié son passé résistant?
Non, parce que cette jeunesse était patriote. Moi, j'ai toujours été patriote. J'ai jamais...
Il y avait un article à ce moment-là sur votre Gestapo d'Algérie par Claude Bourdet.
Oui, mais ça, c'était des gens qui étaient beaucoup plus âgés que nous.
Oui.
J'ai bien connu Bourdet après, puisqu'on a été dans PSU ensemble. Mais non, pas. Vous me posez si ça, c'est des visions qui passent pas par notre existence propre. Que Claude Bourdet ait écrit ça, c'est possible, mais et qu'ensuite même nous-mêmes. Mais la révolte, elle partait pas de là. Elle partait. Au contraire, à mon avis, d'une réaction patriotique. La France peut pas faire ça.
D'accord.
L'armée française peut pas faire ça. Les gens... Il n'y avait pas, au départ, dans la mobilisation, dans la conscience des gens, une vision anti-France. Anti-France, entre guillemets, bien entendu. C'était presque l'inverse. C'est nous qui portions les valeurs. Et quand on nous disait qu'on était anti-France, on comprenait pas.
D'accord.
Pas du tout. Alors après, évidemment, quand on commençait à militer à 14 ans,
Vous étiez pour une certaine idée de la France, une France des droits de l'homme ou...
Même pas, là c'est des mots d'après.
D'accord.
C'est des mots bien d'après.
D'accord.
Parce que même les droits de l'homme, on savait pas ce que c'était. Franchement, dans René Cassin, personne ne le connaissait. Je veux dire, la Déclaration universelle des droits de l'homme, on était des minots. Quand je vois aujourd'hui comment sont les jeunes de 14 ans, moi j'ai commencé à militer à 14 ans.
D'accord.
Ça n'a jamais milité, mais j'étais quand même un gosse.
Ouais.
Mais les gosses qui avaient lu des illustrés, faut quand même se dire qu'en 1954, c'est 10 ans seulement après 44. Comme si vous interrogez un jeune de 78 sur 68. Qu'est-ce qu'il a de la guerre? Des illustrés qu'il lit, dans lesquels les résistants sont torturés par des nazis en costume de SS. On lit c'est cette bande dessinée extraordinaire qui s'appelait La Bête est morte.
Oui.
Si vous voulez. Bon.
Ouais.
On est tout là-dedans. On est dans un. Rappelez-vous, dans La Bête est morte, les résistants, c'est des petits lapins. Et puis voilà, on a cette idée de la débrouillardise du résistant, de l'horreur, de la torture, etc. Les mots droits de l'homme, tout ça, c'est pas pour des gosses
non,
de 14 ans.
Non,
moi, je vous dis, j'ai commencé à militer à 14 ans, et sûrement ce qui a mobilisé mon imaginaire, c'est d'une part que j'avais un oncle qui faisait de la politique, et qui était le frère de ma mère, ça joue,
oui.
Pourquoi,
oui, oui,
évidemment,
oui.
Et qui luttait pour la paix,
oui, bien
à
sûr.
La fois qui avait été important dans la lutte pour la paix au Vietnam, et puis... Et après, dans un regard de libération des peuples d'Afrique du Nord, mais à l'époque, dans une vision d'association des peuples d'Afrique du Nord avec le peuple français, et pas dans... c'est compliqué, la manière dont les choses se sont faites. Mais c'est pas lui qui m'a influencé directement, je veux dire.
Non.
La position... Non, forcément, ça m'a influencé, je veux dire. Mais après, quand j'étais au lycée, entre ce que je pouvais savoir de ce qu'il disait... Et ce qu'il y avait au lycée, de ce qu'on discutait entre nous, faudrait croiser mon témoignage éventuellement avec celui des décéniques, mais c'était comme ça, on ne supportait pas. Alors, Sénic, lui, c'était beaucoup plus construit, parce qu'il d'abord était un tout petit peu plus vieux que moi, il était lui en préparation à Cagnes, à Dipocagne, il faisait de la philo déjà.
Ouais.
Mais dans le lycée, c'était pas de ça dont on discutait. On discutait parce qu'on se faisait casser la gueule par les fascistes dès qu'on disait paix en Algérie, enfin les fascistes, les jeunes qui préparaient Saint-Cyr, etc. On discutait en même temps, les jeunes catholiques, est-ce que tu viens avec moi ? Puisque moi j'étais catho, très catho, dans cette période, enfin, j'étais catholique. Donc est-ce qu'on va au pèlerinage de Chartres ? Est-ce qu'on va à Chartres, mais en parlant de la guerre d'Algérie ? Ou est-ce qu'on va... à Chartres, comme ça, uniquement sur des bases religieuses, enfin, toutes sortes de discussions de cet âge-là, en même temps, on parlait des filles, on allait jouer au baby-foot, c'est pas... 14 ans
oui, oui, d'accord. Hein,
on était des petits-petits, mais en même temps, on cherchait, on allait dans les manifs. Tout ça, c'est pas... C'est la rationalité qui vient d'après n'est pas les conditions dans lesquelles on a vécu, parce que, comme je vous dis... ça commence en 54, je me rappelle plus, parce que la vraie mobilisation qui commence à faire politique, c'est Saqqet Sidi Youssef, c'est-à-dire le moment où, ça doit être en 57, si je me rappelle bien, mais je suis pas sûr. Enfin, je sais que c'est pour moi, c'est l'événement.
C'est quel événement, je sais pas, saisi.
Saqqet Sidi Youssef, c'est le bombardement par l'aviation française d'un camp du FLN en Tunisie, qui a fait...
Ah oui, d'accord.
Des morts assez nombreux dans la population civile. Et dans ma mémoire, c'est ma première manifestation où on sort du lycée, tous.
Oui.
Et on va rejoindre une manifestation étudiante au quartier latin.
D'accord.
Et ça se passe au travers, je pense, des étudiants communistes et du début de liaison d'un réseau qui va se constituer, puisque vous parlez réseau. Où il y aura Jean-Jacques Porchaise, Jean-Paul Ribe, moi, Mylène Dubois et quelques autres, très très jeunes, qui ne sont pas des étudiants communistes, et qui sont des étudiants ou des lycéens très mobilisés sur l'Algérie.
Ce réseau avait un nom ?
Non. C'est des réseaux de lycéens. Il y a ceux du lycée Janson, il y a ceux du... Je crois qu'il y avait Buffon, enfin bon...
Ouais.
Pourquoi ça se fait ? Alors là, il y a l'histoire des jeunesses radicales de l'époque, des jeunes qui étaient mindésistes, donc mais qui étaient un mindésiste déjà beaucoup plus radicaux que le parti de PMF, parce qu'il y avait la guerre d'Algérie. Donc les jeunes qui rentrent qui soutiennent PMF à l'époque... Donc, ça doit être les jeunesses radicales ou les étudiants radicaux. Il y a une association qui s'appelle l'APERS, l'Association parisienne des étudiants radicaux socialistes. Et donc là, on commence à se connaître entre lycéens et jeunes étudiants qui ne sont pas communistes, dont tous feront à peu près le même itinéraire, de l'APERS au Parti socialiste autonome, du PSA au PSU... et du PSU à plein d'autres choses. Mais il y a un petit vous, si vous parlez réseau, c'est sûrement comme ça, et ces jeunes très très vite sont beaucoup plus radicaux, au sens là de la radicalité américaine,
ouais.
Et pas de la radicalité française, parce que la confrontation avec la guerre d'Algérie les oblige.
D'accord.
Ils sont plus à gauche, quelque part, que les étudiants communistes et les lycéens communistes. Ils sont plus révoltés, quelque part, parce que le fond éthique est puissant.
Oui.
Et qu'ils n'ont pas au-dessus d'eux la chape du Parti communiste qui, à l'époque, est paix avec. Quand on va aux manifs, on gueule paix avec l'Algérie. C'est un peu plus tard. Hein. Pour vous donner la différence, on se fait souvent casser la gueule parce qu'ils gueulent paix en Algérie. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Oui, d'accord.
Donc le Parti communiste considère que quand on dit paix avec l'Algérie, on n'est pas dans la ligne.
D'accord.
Et ça veut dire qu'on est déjà beaucoup plus radicaux et ça ne leur plaît pas.
D'accord. D'accord.
Et puis se constitue ce réseau des comités de jeunes pour la paix en Algérie dans les lycées et dans les quartiers, qui va devenir alors la base de l'extrême gauche anticommuniste. Anticommuniste, l'extrême gauche anticommuniste, je dis bien. De l'extrême gauche qui, à la fois, se rend compte que le Parti communiste de l'époque est mou du genou, ne fait pas tout le travail anti-impérialiste qu'on attendait. Laisse tomber les dirigeants de la jeunesse communiste qui ont refusé de partir à l'armée, puisque c'est quand même ça qui s'est passé, puisque les dirigeants de la jeunesse communiste qui ont refusé d'aller, dont Alban Liechti et d'autres, ils ont été emprisonnés, ils sont partis en prison, et le Parti communiste ne les a pas vraiment défendus.
Ah ouais, d'accord.
Donc il y a une sorte de prise de conscience de ces jeunes, je crois assez massive, hein, qui va toucher des centaines de jeunes étudiants et lycéens, qui va expliquer ensuite, on va bien voir qu'en mai 68, ça va pousser. C'est-à-dire que dès la guerre d'Algérie, dans les lycées, dans les facs, pour les plus jeunes des facs, et dans certains quartiers ouvriers, dans les associations de jeunesse, on va trouver des jeunes qui estiment que le Parti communiste ne fait pas tout ce qu'il devrait faire pour la paix avec l'Algérie et pour la solidarité avec le peuple algérien.
D'accord.
Et ça, tous ces jeunes-là, ben, on trouvera des explications, puisque dans les lycées, ben, là, on retrouvera l'éducation de Krivine, puisque ça vient aussi de là, les comités antifascistes dans les lycées. Il y a tout un magma de lutte dans lequel personne ne sait qui est trotskiste, on parle pas de trotskiste, on parle pas de maoïste, on parle de rien.
D'accord.
On parle de la lutte pour la paix. Et des moyens qu'il faut mettre en œuvre pour lutter contre la guerre d'Algérie. Alors ça ira, évidemment, après, il y a des gens qui s'engageront dans la radicalité d'aide au FLN, d'autres qui s'occuperont, qui seront plus orientés vers l'aide aux militaires, après, il y a toute une immense palette,
oui,
dont vous avez probablement vu qu'elle va se concentrer vers ce qu'on a appelé la réunion de la rue de la Havre, qui doit être en 1960. Moi, je ne sais pas où vous en êtes dans votre étude.
Oui.
Si je vous dis des choses qui sont...
Non, mais je peux toujours les vérifier. Mais
non, mais vous êtes au courant de ça?
Oui, non, la réunion de la rue de la Havre.
De la Havre, qui se tient dans un temple protestant, rue de la Havre, où seront là, pour la première fois, je crois que c'est en 60, réunis l'ensemble des mouvements de la jeunesse qui luttent contre la guerre d'Algérie.
Oui.
Il y a la jeunesse communiste, il y a des jeunesses chrétiennes, enfin il y a la GEC, il y a tout le monde, toutes les associations, on doit se retrouver à 80 personnes, je pense, à peu près.
Oui.
Toutes les organisations sont là, à peu près, enfin toutes celles qui comptent. Et c'est la première réunion en France qui se tient sur le sol français avec une délégation de la jeunesse du FLN et du FLN.
D'accord.
Et donc ça fait un énorme scandale, puisque à la suite de cette réunion, quand même, les renseignements généraux ont fini par le savoir. Et trois d'entre nous ont été arrêtés, dont des copains les plus proches de moi. Jean-Jacques de l'époque, Jean-Jacques Porchaise, Mylène Dubois et Jean-Paul Ride. Donc toute la presse de l'époque a parlé de cette réunion, France Soir, etc. C'était la trahison, c'était la réunion de la trahison. Mais en même temps, il y avait l'UNEF, bien sûr, donc il faut voir, oui, l'importance de cette réunion, l'UNEF, plusieurs AG de l'UNEF, la jeunesse communiste, enfin bon, tout le monde. Mais c'est une réunion donc qui démontre, parce que je crois que c'est en 60, que la capacité organisationnelle de cette jeunesse, pour ça que je vous dis qu'on a eu de la chance d'avoir une si longue éducation, C'est que d'abord, il y aura des arrêtés, mais il n'y en aura que trois. Oui. Très peu. Quatre. Oui. Quatre. Ben, j'ai oublié le nom du quatrième. C'est le quatrième. C'est le... Il y en a un qui a donné les noms des trois autres. Donc, alors lui, j'ai oublié son nom. Peu importe. L'histoire ne le retiendra pas. Ce qui ne veut pas dire que c'est un salaud. Je ne dis pas ça. Enfin, j'ai oublié. Là, à l'instant, j'oublie son nom. Et puis, ce n'était pas un de mes propres amis proches. Donc, ça explique aussi pourquoi. Tandis que les trois autres, c'était vraiment mes potes complets.
Oui.
Et de l'époque. D'ailleurs, ils sont tous les trois. Ils viendront en Algérie. Aussi bien Mylène que Jean-Paul. Et Jean-Jacques, il viendra aussi pas mal. Donc, pour nous, notre vie, c'est l'Algérie. Et cette réunion... Si vous voulez, elle est importante dans le sens de la démonstration, justement, si vous travaillez sur les réseaux, de comment se sont constitués ces réseaux pendant la guerre d'Algérie, de façon complètement indépendante du Parti communiste.
Ouais.
C'est pas le Parti communiste qui organise cette réunion. Le grand vous l'avez rencontré, Jean-Jacques Porchaise, ou pas?
Non, pas encore, non.
Donc, je crois que c'est... Enfin, ça, c'est à lui de le dire. Je veux pas lui dire... ça, je vous le dis pas.
C'est, d'accord.
Je sais pas ce qu'il fait de son passé, là, aujourd'hui. Enfin, l'un d'entre nous est l'organisateur de cette réunion. Ça se fait sûrement en dehors du Parti communiste. Ça se fait avec l'aide de réseaux, alors qu'ils sont plus anciens que les nôtres, dont je ne vous parlerai pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais qui puisent leur histoire beaucoup plus loin dans l'histoire du mouvement communiste international ou dans l'histoire du mouvement anti-impérialiste. Donc, c'est vrai qu'il y a du soutien, il y a des choses qui se passent. Mais c'est vraiment une organisation qui vient quand même des jeunes. Et l'idée a été, je ne sais pas qui l'a eu, enfin je sais, mais vous verrez ça avec d'autres éventuellement, c'est qu'on rentre dans cette réunion avec des brassards de coureurs cyclistes.
Oui.
Et donc, même quand on se connaît, on ne s'appelle pas par nos noms, on s'appelle par nos numéros.
D'accord.
Et pourtant, il y en a beaucoup qui se connaissent les uns les autres parce qu'ils militent ensemble, dans les rues, etc. Ce qui fait que quand les mecs, le type qui a craqué, il donne les numéros, mais il donne les noms de trois personnes qu'il connaît à la fois les numéros et le nom.
Oui.
Donc le quatrième, il a donné les numéros et les noms. Mais les trois autres n'ont donné personne.
D'accord.
Ce qui fait que finalement, il y en a eu trois d'arrêtés. Vous verrez dans la presse de l'époque, si vous retrouvez, quel scandale ça a été. Moi, je donne ça simplement par rapport au fait que, dès ce moment, cette capacité organisationnelle du mouvement de la jeunesse est très puissante, qu'elle va arriver avec l'UNEF, parce qu'il y a aussi l'UNEF, il y a les deux facteurs, il y a la capacité organisationnelle de ceux qui sont vraiment contre la guerre d'Algérie, et puis il y a l'UNEF en tant qu'organisation de masse de la jeunesse étudiante de l'époque, qui est aussi contre la guerre d'Algérie, et qui nous donne une capacité organisationnelle encore plus large.
D'accord.
Jean-Jacques était secrétaire général de la Fédération des étudiants en sciences. La fac de lettres, Fédération générale des études de lettres, a donné un nombre de cadres incroyables au mouvement de mai 68. Péninou, Kravets, comment il s'appelle,
un type qui est journaliste, enfin bon, un nombre, et puis de femmes extraordinaires, Dominique,
enfin bon, un nombre.
Oui.
L'Avgel a été un incroyable berceau de cadres du mouvement intellectuel et du mouvement politique, que ce soit en 68 ou après. Tout ça, ce sont des gens qui ont appris et qui ont été les cadres de mai 68, évidemment Krivine et bien d'autres, de sa sensibilité. Donc voilà, cette éducation à la fois du lycée, de la fac quand on est étudiant, de la guerre d'Algérie, etc., fait de nous des intellectuels radicaux, des jeunes intellectuels radicaux, intellectuels, je mets beaucoup de guillemets parce que la militance fait de nous des intellectuels assez atypiques, parce que très peu dans les livres, très peu dans les livres, beaucoup dans l'action, des activistes, très peu dans la réflexion théorique et beaucoup dans...
Vous n'étiez pas sartrien à l'époque?
Non. Je lisais Sartre comme tout le monde, mais enfin les romans. J'étais rien du tout, pour dire la vérité. J'étais comme beaucoup d'autres. J'étais un militant de la jeunesse. Très vite, le ciel a fait. Je dis le ciel parce qu'il vient de mourir.
que j'ai rencontré un camarade qui s'appelait Charles Auguste Nasio. Vous voyez, comme le lycée va amener des hasards.
Oui.
Avec Séni, qui avait les comités de jeunes pour la paix en Algérie au lycée. Donc ça, bon, je peux bien dater, puisque c'est 1957, donc c'est proche de cette quête Sidi Youssef, je suppose. Je suis activiste au lycée, je fais plein de choses avec les autres, enfin avec mes copains lycéens du lycée. Et je pense que c'est des décennies qui a dû me proposer pour que je fasse partie de la délégation du lycée au Festival mondial de la jeunesse à Moscou en 1957, qui est la grande organisation paracommuniste de l'international.
Oui. Bon.
Et donc je pars en 1957, mon père et ma mère étant complètement apeurés de ça, mais enfin j'ai déjà un peu d'autonomie que je conquiers vis-à-vis de la famille. Et je pars en Russie en 1957 au Festival mondial de la jeunesse, et là je rencontre Charles Auguste Nasio, qui est un militant ouvrier, un jeune militant ouvrier de la CGT, qui vient de mourir. Il y a,
oui.
Je pars là tout à l'heure voir sa femme à Nantes, donc on est resté amis jusqu'à dernier jour de sa vie, et qui sera pour moi celui qui m'a tout appris et qui me fait rentrer très vite. Très vite, donc dès 57, dans 58, puisque à partir de 58, on militera ensemble, et jusqu'à 58, jusqu'à sa mort d'il y a quelques semaines, enfin décembre dernier. Et là, il y a un réseau considérable qui est le réseau dans lequel j'ai construit ma vie politique et militante, qui s'appelle les CLAJ, les clubs de loisirs et d'action de la jeunesse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler
oui.
de ça. Jeunesse, enfin, à l'époque, ça s'appelle Jeunesse Camping. Et qui va être le creuset de ma vie militante d'intellectuel auprès du mouvement ouvrier. Et c'est bon, voilà. Si je n'avais pas rencontré Charlot, je ne sais pas ce que je serais devenu.
Est-ce que vous, comment s'écrit son nom de famille ?
Dusnasio.
D ?
D-U-S-N-A-S-I-O.
D'accord.
Ce qui fait que dans toute ma vie politique, j'ai été considéré comme un ouvriériste par certains. Ça me fait aujourd'hui beaucoup rire, mais enfin, à l'époque, et dans toute ma vie, beaucoup moins, puisque j'ai toujours milité avec, bien qu'intellectuel, j'ai toujours milité avec des jeunes ouvriers d'abord, puis avec des ouvriers quand ils grandissaient comme moi. Et je suis resté très très proche de ce noyau d'équipe, qui est une histoire très très passionnante, de militants d'extrême gauche. Mais c'est une histoire qui se puise dans la résistance, qui est l'histoire du... Des cathos qui sont entrés dans les FTP, des prêtres ouvriers, de l'extrême gauche de l'Action catholique ouvrière. Les CLAJ étant issus de cette trame, mais laïque. Après, s'étant laïcisé largement.
Catholique, mais un peu comme le CFTT ou...
Non, beaucoup plus à gauche.
Beaucoup plus à gauche, d'accord.
Oui, beaucoup. Enfin, beaucoup plus à gauche, y compris sur le plan théologique. C'est les prêtres ouvriers, c'est la théologie de la libération, disons, en France. Mais ce sont des militants qui étaient inscrits, qui étaient des militants ouvriers dans les entreprises. Et donc, mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, c'est à la fois mon histoire, mais...
Non, mais c'est parce que j'essaie de vous repérer un peu, parce que vous n'êtes pas passé par... L'Union des étudiants communistes.
Si, après mon retour, en revenant d'Algérie, mais c'est beaucoup plus tard. Pour moi, je suis déjà formé autrement, je me suis formé autrement qu'à l'UEC, comme d'autres.
Oui,
ceux qui ont été formés par la guerre d'Algérie, ils ont pu aller à l'UEC, mais ils étaient au départ, dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, leur formation, même si Krivine était aux jeunesses communistes, c'est pas dans les jeunesses communistes qu'il a appris, à mon avis... qu'il est devenu un leader de masse, c'est dans la lutte lycéenne, puis la création du Front universitaire antifasciste, puis... Enfin, ça, c'est son histoire, c'est pas la mienne.
Oui.
Mais enfin, il y a eu pas mal d'entre nous, de cette époque, qui ne se sont pas formés à l'action politique de masse ou à l'action politique, dans la trame, j'allais dire, de la direction du parti sur les masses. À l'inverse, dans la mobilisation d'un certain nombre de jeunes à la base,
Oui. Du bas vers le haut et pas du haut vers le bas, pour aller vite.
D'accord, mais il y a des gens comme Sally qui étaient dans l'USC qui racontent qu'ils étaient contre l'appareil du parti, contre le parti, etc.
Et lui,
étant communiste.
Bien sûr, parce que eux, ils étaient déjà dans l'Union.
Oui.
Mais pour ceux qui n'étaient pas, soit les jeunes chrétiens, soit les jeunes comme moi, soit d'autres, et bien d'autres, c'est pas dans l'appareil du parti, c'est dans la. Parce que tous ceux qui ont été formés dans ce qu'on a appelé les réseaux, après les réseaux porteurs de valises, j'en ai pas été. Toute une. Je sais pas comment vous dire, tout un réseau de différentes méthodes de travail pour la paix en Algérie.
Oui.
Ça a été le cas dans les CLAJ, bien entendu. Les CLAJ ont été très, très, très engagés dans la lutte et la solidarité au peuple algérien. Il y avait des camarades à la CGT, pareil. Il y avait des camarades à la CFTC, pareil. Qui avaient, CFTC de l'époque, qui n'attendaient pas du Parti communiste la moindre consigne pour s'engager dans les luttes.
Hein,
c'est comme si vous me disiez, alors c'est mutatis mutandi, on n'a pas attendu les FTP pour certains. Ou le Parti communiste, pour que certains rentrent dans la résistance. Il y a eu, et d'ailleurs, le mouvement clandestin, je ne sais pas si vous avez eu Hurst, Jean-Louis Hurst, vous ne l'avez pas rencontré. Enfin, le grand mouvement de la jeunesse clandestine, s'appelle Jeune Résistance.
Oui.
Jeune Résistance, évidemment, ça ne rassemble pas des dizaines de milliers de gens, bien loin de là.
Non.
Quelques petites centaines. Encore que j'en sache rien, puisque moi j'ai jamais été dans Jeune Résistance, en tout cas, enfin j'ai été très très ami en Algérie avec Jean-Louis Hurst. Et d'autres, il n'y a pas que. Il y en a maintenant qui sont morts, donc c'est plus difficile de les retrouver, mais enfin ça a été mes camarades pendant suffisamment longtemps. Et ces jeunes n'ont jamais attendu le Parti communiste pour s'organiser.
D'accord.
Et pour apprendre. Et,
d'accord.
Et puis quand après, on a rejoint plus ou moins le Parti communiste à tel ou tel moment. Moi, je suis rentré d'Algérie en 65, début 65. Et je suis rentré, non pas directement à l'UEC, mais aussi, bon, il y a toute l'histoire de notre présence en Algérie.
Qu'est-ce que vous avez fait en Algérie ?
Comme les autres pieds rouges, on appelait ça les pieds rouges, on est parti, là aussi une petite cohorte de quelques centaines, quand je dis c'est 100, 200, 300, je sais pas, j'ai du mal, il n'y a pas de bouquin sur les pieds rouges, je crois pas, il n'y a pas de, mais enfin c'est la suite logique. L'indépendant, moi, c'est un peu le hasard, parce que je suis parti pour 3 jours en Algérie apporter des médicaments, et puis finalement je suis resté 3 ans à peu près, enfin 2 ans et demi, 3 ans. Comme d'autres. Et là aussi, il y a eu l'éducation politique, c'est là qu'on a rencontré, moi j'ai eu la chance d'y rencontrer Che Guevara, je suis parti à Cuba avec Che, qui nous a ramené, enfin bon, il y a toute une histoire, l'autogestion industrielle, l'autogestion agricole, nos prises de responsabilité dans le début de la guerre de l'indépendance algérienne, qui fait que nous sommes des jeunes instruits, des jeunes enthousiastes, on est venu là dans le cadre de et on a plein de copains algériens qui
oui.
Donc on vit dans un enthousiasme, il y a Cuba, il y a l'Algérie, c'est... On est passé, on a pensé, en tout cas, moi je remercie le ciel pour ça, j'ai eu 3 ou 4 ans, y compris une partie de 68, où on a pensé qu'on pouvait faire la révolution. Et donc on a été très heureux, moi j'ai été...
J'ai Parce vécu... qu'à ce moment-là, la révolution devait partir de l'Algérie.
Non. Non, là, c'est
la révolution qui
donne. Non, je vous parle pas, je fais pas de la rationalisation. Vous me demandez, je vous dis, mais les sentiments, je vous dis, nous avons vécu le bonheur,
oui.
Le bonheur incroyable, comme peut-être certains des militants en 1945 à la libération, comme les Algériens qui ont vécu juillet en 62. On a eu la chance, quelques centaines de privilégiés jeunes qui avions milité pour la paix en Algérie. Un, de voir qu'il y avait eu la paix en Algérie.
Ouais.
Deux, qu'il y avait une révolution qui se disait socialiste, laïque au départ, qui accueillait tous les révolutionnaires du monde entier, d'Afrique du Sud, du Cuba, de partout, qui était la fraternité. J'ai organisé les camps des camps internationaux de la jeunesse où toutes ces jeunes de 68 se sont retrouvés, le camp de Sidi Ferruche, tout le monde en a parlé à l'époque, donc c'est moi qui en avais pris l'initiative et la responsabilité. Et là, on retrouvera tous les jeunes qui ont fait mai 68, enfin tous les cadres.
D'accord.
Ils y sont passés, les Italiens, les Allemands, les puisque c'est un camp international, ceux qu'on retrouvera dans l'OTA continua, ceux qu'on trouvera dans les étudiants allemands.
D'accord.
Il y a un lieu comme ça, l'Algérie, dans lequel, à un moment donné, c'est plus proche que Cuba, et on espère que de là, la fraternité entre les peuples se fera, mais il n'y a pas dans pourquoi c'était tellement heureux et que ça paraît tellement lointain, c'est que on dit pas t'es musulman, on dit pas t'es catho, on dit pas t'es juif. Il y a des jeunes Israéliens qui peuvent rencontrer de partout. Il y a à l'époque un militant algérien qui est le petit-fils de l'émir Abdelkader, qui est dans le FLN, mais qui est pro-sioniste.
D'accord.
C'est un mouvement universel, magnifique, fraternel et tout, dans lequel on est heureux. Voilà. Les hommes, les femmes, le bonheur, l'amour, tout ça, ça existe. Un grand, grand, grand moment. Et où tout le monde est là. Ben voilà. Après le coup d'État de Boumdienne, les choses changent. Et bon, moi je suis rentré avant le coup d'État de Boumdienne, pour des raisons à la fois personnelles, mais aussi parce qu'il y a un peu de politique. Les Algériens commencent à se méfier de nous, non pas... Enfin, moi, par exemple, mes camarades me demandent de prendre la nationalité algérienne et je veux pas.
Ouais, d'accord.
Je dis, je suis pas algérien. Il y a un début d'islamisation, un début de conditions dans lesquelles la religion commence à prendre le pas sur l'internationalisme, le nationalisme, les cadres algériens...
Commences en mystique et finis en politique, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment de l'internationalisme et de la fraternité qui va jouer, y compris avec les Cubains, et puis il y a un moment dans lequel le nationalisme arabe devient un nationalisme islamique en montant. Enfin, ça se fait pas du jour au lendemain.
D'accord.
À l'époque, Alger, les gens, les militants, ils vont dans les cafés, ils boivent, il y a des artistes extraordinaires, ici à Kem, Sénac, enfin bon, il y a... C'est une grande, grande ville, c'est magnifique. Alger, 62, 63, 64, c'est sublime. Et puis voilà, il y a plein de gens qui s'y rencontrent, comme on devait se rencontrer quelque part, pas de la même façon, à Moscou, dans les années 20. Ouais. C'est plus les mêmes, c'est les jeunes, etc. Puis, il y a l'Afrique du Sud, on commence à la solidarité à l'Afrique du Sud. Il y a la solidarité au peuple de l'Angola et du... etc. Il y a tout un... l'Angola, le... Il y a tout ça, Et puis, c'est... Les jeunes qui viennent en Algérie de toute l'Europe ne se sentent pas... ne se regardent pas derrière leur dos pour savoir s'il y a un barbu. Il n'y a pas de barbu.
D'accord.
Non, ce sont des camarades, les Algériens.
D'accord. Et donc là, vous êtes rentré en France.
Vous êtes rentré en France. Et là, après différentes petites choses et heures avec le PC, je rentre à l'UEC. Donc je rentre dans l'opposition. Quand je rentre à l'UEC, je suis déjà oppositionnel au Parti communiste. C'est-à-dire, je rejoins le Parti communiste en étant déjà oppositionnel, en gros.
Oui.
Parce que porteur des valeurs, mais alors là, à l'époque, le Parti communiste est un petit peu dans l'hésitation. Il est d'autant plus dans l'hésitation que normalement, il doit y avoir le Festival mondial de la jeunesse en Algérie. C'est prévu.
Ouais.
C'était prévu avant le coup d'État de Boumdienne. Et quand je rentre, les jeunes du FLN avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, la jeunesse FLN qui est largement noyautée par le Parti communiste algérien, enfin voilà. Noyauté, j'aime pas le terme.
Non.
Parce que c'est pas le cas. Non, mais ça pourrait l'être.
Oui.
Mais c'est pas ça, c'est pas passé comme ça. Il y a beaucoup de jeunes du FLN, de la jeunesse FLN, qui ont rejoint le Parti communiste algérien. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas le Parti communiste français, le Parti communiste algérien de l'époque. Mmh. Et donc des jeunes cadres qui avaient fait la guerre, FLN et tout ça, et qui avaient pas de formation communiste, et d'autres jeunes communistes qui avaient été emprisonnés, je pense à Boualem Makouf et à d'autres, font une sorte de fusion, là, et puis la jeunesse algérienne, la JFLN, est très influencée par le Parti communiste algérien.
D'accord.
Et moi, je travaille avec eux, voilà, avec cette jeunesse radicale. Et donc, quand je rentre en France, je suis chargé par eux d'être l'organisateur technique, en tout cas, puisque c'est d'ailleurs mon premier métier, puisque j'avais travaillé dans le tourisme populaire. Et en Algérie, je m'étais occupé du tourisme populaire, parce que j'étais secrétaire général j'ai fondé, enfin, quelque part, l'ONAT, l'Office National Algérien du Tourisme.
Oui.
Et donc, ils me demandent de les aider en France à être un peu l'organisateur, avec la jeunesse communiste, avec un organisme technique de la jeunesse communiste de France, qui s'appelle, ça n'existe plus, ça s'appelait comment ? Loisirs et vacances de la jeunesse, LVJ, d'organiser matériellement les déplacements, la logistique pour amener tous les gens du monde entier qui vont se retrouver en Algérie. Et le festival sera annulé du fait du coup d'État.
Ah ouais,
mais normalement, ça devait être en août 65. Et ben, il n'y aura pas de festival mondial de la jeunesse du fait du coup d'État.
D'accord.
Et de l'arrestation des communistes, enfin bon, en Algérie, et du début de répression qui va se mettre en place contre les partis politiques d'extrême gauche, dont évidemment le Parti communiste algérien, interdiction d'Algérie républicaine, enfin tout ça, faisant partie de l'histoire. Donc moi, simplement, ce que je veux vous dire, ça, c'est antérieur pour moi à mon travail à l'UEC. Et quand j'arrive à l'UEC, je suis déjà porteur d'une image dans mon secteur de guévariste. C'est nous qui traduisons les textes, alors ça pose beaucoup de problèmes avec le parti. On fait la traduction des textes du discours d'Alger de Guevara, qui est un discours de rupture avec le parti communiste, avec les soviétiques plutôt. Et ça fera, si vous voulez, quand on parle de l'UJCML, l'UJCML a été la fusion entre un collectif guévaro, anti-impérialiste, machin, et ce qu'on a appelé le cercle d'Ulm, enfin certains disent les Ulmars, mais on dit ça aujourd'hui, on ne disait pas tout à fait ça comme ça à l'époque, et le cercle de l'UEC, enfin les Althusseriens, comme on disait, et l'UJCML se crée comme ça, c'est-à-dire d'une part un collectif issu de, disons, de la pratique théorique althusserienne,
oui,
et un collectif plutôt issu de la pratique militante, puisqu'on est 8 au départ, ou 7 ou 8, je ne sais plus, pour fonder l'UJCML, qu'on n'appelle pas d'abord l'UJCML, mais le centre, c'est son premier mot, son premier terme, ce sera le centre, et le centre, qui au début ne travaille qu'avec l'UEC, pour essayer de constituer un collectif plus large, deviendra, dans un deuxième temps, l'UJCML.
Donc est-ce qu'il y avait une tension entre les gens comme vous, qui avaient une pratique de militantes en Algérie et ailleurs, et les intellectuels de la rue d'Ulm?
Bien sûr. Mais une tension positive, pas une tension négative.
D'accord.
Tension, la tension, il faut voir comment...
Tension on appelle créative.
Tension. Tension tout à fait créative et... De nous qui manquions cruellement de formation, moi en particulier...
Marxiste.
De formation. Même pas marxiste, de formation intellectuelle.
Ah bon ?
Bon, je veux dire... c'est pas parce qu'on a lu Frantz Fanon, j'allais dire... Nos lectures étaient des lectures très... comment dire ? Je sais pas comment vous dire. Nos lectures de l'époque étaient liées à notre engagement politique.
Oui.
De façon... mais avec une vision très instrumentale de ces lectures. Très instrumentale. Ma rencontre avec Robert Linhart, par exemple, qui est très importante, puisqu'elle s'est faite en Algérie.
Ah oui.
Parce qu'ils ont tous été... ils ont tous venu en Algérie.
Hein. Alors ça, je ne savais pas.
Ah, Sidi Ferruch, là, Ouskan en particulier, Krivine, Weber, tout ça, tout ce monde-là est venu, les Italiens, enfin, ceux qui ont fait ensuite d'autres choses. J'ai rencontré Robert en Algérie, ce qui m'a tout de suite passionné, alors que moi je travaillais effectivement non seulement dans la jeunesse comme militant, mais mon boulot, c'était plutôt la formation des responsables de la gestion des entreprises industrielles autogérées,
ouais.
Avec d'autres, pas moi qui faisais ça, hein. J'étais un jeune, avec d'autres, enfin on était bon, dans un institut. Les conditions dans lesquelles, je sais plus ce que je vous disais, là j'ai un trou de...
Votre rencontre avec Linard.
Ah oui, avec Linard. Quand on a décidé, alors ça c'était dans ma pratique militante, de dire bon, on va faire ce camp de la JFLN, avec cet objectif un peu de, si on est capable de ça, on pourra faire le Festival mondial de la jeunesse, une sorte de préparation d'un camp international, oui, de la jeunesse européenne, où sont venus des jeunes d'Égypte, des jeunes de Syrie, des jeunes d'Amérique latine, des jeunes partout, enfin bon, des jeunes d'Afrique du Sud, mais qui étaient plus petits. C'est un truc où on a pris une installation qui était d'ailleurs une installation de l'armée française, et on en avait un camp de parachutistes qu'on a transformé, ouais, en camp de jeunes, avec la logistique qui était la nôtre, qui était d'ailleurs assez faible à l'époque. Mais on a réussi ce camp, tous ceux qui ont été ont trouvé que ça avait été un truc très bien. Et Robert, lui, quand il est venu pour ce truc-là, au lieu de rester là, il a été dans les campagnes et il a commencé un travail d'étude. Donc on trouve là déjà ce qu'on retrouvera dans notre maoïsme commun, à lui, à moi et à quelques autres, qui était la phrase de Marx, analyse concrète de la situation concrète. C'est-à-dire, oui, le marxisme, c'est à la fois le marxisme le nôtre, en tout cas, et puis ça n'a pas changé pour ce qui me concerne, encore que je ne sache plus, je ne sais pas si je suis marxiste, mais c'est qu'on ne fait pas on fait pas de la politique comme ça. On va sur le terrain, on étudie, on fait des enquêtes, puis on malaxe tout ça, prendre les idées aux masses, les systématiser, les retourner aux masses, dire à Mao. C'est un peu ça qu'il y avait dans Marx, déjà, analyse concrète de la situation concrète, pas raconter n'importe quoi, aller sur le terrain, faire l'enquête de façon scientifique, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la méthode de l'enquête, l'analyse objective des faits, pas l'analyse idéologique, la situation réelle.
D'accord.
Et c'est ce que fera Robert Linhart, et c'est là-dessus qu'on est devenu, alors il a habité chez moi, on est devenu camarades.
D'accord.
Plus que ça, camarade et ami, mais et c'est le seul de toutes ces jeunes, et c'est pour ça probablement qu'on est devenus des frères à ce moment-là, que j'ai retrouvé dans cette volonté de travailler sur le terrain. Et simplement, ils avaient, eux, les Ulmars, puisqu'on parle de ça, des tensions, ils avaient une pratique théorique, c'est-à-dire un travail sur les textes de Marx autour d'Althusser, de la réflexion philosophique, mais ils n'avaient pas, pour la plupart, sauf Robert, cette capacité d'aller sur le terrain. Bon. Et donc l'attention, c'est ça. C'est moi, je parle pour moi, d'autres étaient peut-être plus cultivés. Moi qui étais vraiment nul, enfin qui avait une formation économique, enfin, en tout cas une vision certainement de la lecture et de l'étude très insuffisante. Quand on parle de ça, oui, il y avait ceux qui voulaient vraiment dans la pratique militante, l'action, que l'action c'est tout à fait important, qu'on ne peut pas rester simplement à étudier, qu'il faut sortir de l'université, qu'il faut aller voir les gens, donc
oui,
mon rapport avec les CLAJ, avec les équipes des CLAJ, avec le travail que nous avons fait, avec les jeunes ouvriers, avec ceci, avec cela, enfin bon, toutes sortes de capacités de sortir, donc une tension positive qui, je pense, a donné tout son crédit à l'UJCML, qui à partir du moment où nous, ce collectif et eux se sont fusionnés, eux sont devenus beaucoup plus militants, ils,
ouais,
ont commencé à mettre la main à la pâte, et nous, on a commencé à se dire, mais attends, on est nul, il faut aller sur le terrain, faire des enquêtes, etc., d'où le travail d'enquête de l'UJCML, qui n'a pas fait l'enquête, n'a pas le droit à la parole, aller dans les usines, travailler sur l'immigration, enfin, tout ce travail sociologique considérable qui n'existait pas à l'époque,
ouais,
sur l'immigration, le rôle de l'immigration, la jeunesse, les catégories sociales nouvelles, qu'est-ce qui se passait vraiment dans la réalité, mais tout ça vu d'une façon plus, au départ, plus, en tout cas pas les lectures idéologiques que j'avais eues auparavant, c'est-à-dire, tiens, il y a un bouquin de... Je prends Fanon, parce que ça a été très important dans notre vie. Fanon, ben voilà, c'est utile pour la lutte. Ouais. Mais je n'avais pas été vérifié moi-même, ou faire participer à ce qu'après on a appelé les enquêtes-actions, c'est-à-dire à la fois faire l'enquête, voir les gens, essayer en même temps qu'on fait l'enquête de les organiser, de se poser avec eux des problèmes, de vivre avec eux, de partager leur vie, enfin toutes sortes de choses, qui ont fait que le JCML est devenu, a eu une autre image que les Ulmars.
Oui.
Le JCML, si elle a ça à marcher, c'est qu'elle était aussi les mains dans le cambouis. C'est pas que les cahiers marxistes-léninistes.
D'accord.
C'est les manifs de solidarité, hein, c'est tout ce qu'on a fait le 21 février. Donc le JCML est à la source de cette restitution du 21 février, la journée internationale que le Parti communiste avait abandonnée, qui était la journée anti-impérialiste, et l'anniversaire de la mort de Manouchian. Donc on retrouve notre patriotisme. Ah oui. Hein. À la fois Manouchian, la lutte des immigrés en France pour leur libération, et la libération de la France, pas rien, comme image. Donc là, on retrouvera Pierre Goldman, on retrouvera bien d'autres, à savoir, bon, les immigrés en France, c'est pas simplement des gens qu'on cache, c'est des gens qui ont été à la pointe de la lutte patriotique et de la des FTP, donc ça joue un rôle, journée inter-impérialiste, les anti-banistes, les comités Vietnam de base, le comité de soutien aux luttes du peuple. Un UJCML, c'est pas l'image qu'on veut en donner aujourd'hui d'une vision purement théorique des gens qui sont des Althussériens. Sinon, la jeunesse nous aurait jamais suivis et l'influence de l'UJCML n'aurait pas été aussi puissante que ce qu'elle a été.
Quand vous dites nous, les gens qui sont venus avec vous, qui n'étaient pas à rue d'Ulm, vous pensez à qui ?
Je pense à Gérard Dahan et à sa femme, Annie Dahan. Gérard est malheureusement mort. Qui était la faculté de sciences, un garçon absolument extraordinaire, et ami, qui est elle toujours vivante, des scientifiques. Il y avait Mann, il y avait. Enfin bon. J'ai pas trop envie parce que
non,
de vous donner des noms là parce que je vous dis
non,
ça.
Non, c'est plutôt pour la transcription.
Ne donnez pas ces noms parce que
non,
il y a plein de gens. Je vais vous dire ce qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'il y en a plein qui ont fait des choses très importantes, très généreuses, très etc. Dont on n'entend plus parler.
Oui.
Il y en a que je rencontre dans la vie militante toujours.
Oui.
Donc là, ils parlent pour eux-mêmes. Mais il y en a qui ont fait des carrières particulières, intellectuelles parfois, extraordinaires pour certains, mais qui ne revendiquent plus du tout leur passé. Ça leur appartient, ça ne m'appartient pas.
D'accord.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'au sein de l'UEC, progressivement, différents secteurs de l'UEC se sont agrégés parce que quelque part, d'abord le secteur droit, ça c'est celui où j'étais, d'abord le secteur droit, puisque c'est les premiers qui ont fait le JCML, c'était secteur droit. Là, il y en avait trois, dont moi.
Oui.
Trois ou quatre. Je me rappelle bien. Hein, je ne me rappelle plus s'il y était au tout début. C'est pour ça que je ne sais pas si on était 7 ou 8. Enfin, 4 du secteur droit, 4 d'Ulm, dont... sur les 3 d'Ulm, 3 sont morts désormais, enfin morts, 2 sont morts, 1 malheureusement est intellectuellement mort, c'est Robert Linhart,
oui.
Vraiment malheureusement, intellectuellement parce qu'il est toujours vivant, les 2 autres, donc 2 autres sont morts, il n'y en a qu'un qui survit et je ne sais pas ce qu'il est devenu, pour vous dire la vérité, et puis ça ne m'intéresse pas tellement. Donc, bon, ces gens, quand on dit après, oui, et tout ça, il suffit de regarder les journaux pour le voir, oui, progressivement, le secteur science, les beaux-arts, des groupes de lycéens importants, qui étaient des cagneux, enfin des gens en hypocagne ou en cagne, des étudiants en lettres, étudiants en histoire aussi, face à Krivine. Il y a eu un développement qui a fait, quand on dit je me retrouve avec tous ces gens-là, et certains entreront à la direction du JCML.
D'accord. D'accord.
Et deviendront à la fois, bon, là, après il faut voir l'empreinte très 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 forte qu'avait Robert Linhart sur tout le monde.
Oui.
Un peu, avec un peu une différence entre nous deux, c'est que moi je l'avais connu avant, donc on était un peu dans des rapports de fraternité un
peu
différents.
Vous l'avez rencontré en quelle année?
Robert, bien avant que se crée le JCML, puisqu'il est venu en Algérie en 64, le camp de Sidi Ferouche, je pense que c'est 64, je ne sais plus si c'est 64 ou 63, je ne m'en rappelle plus, non, c'est sûrement 64, je ne sais plus, je ne sais plus si c'est 63 ou 64, là j'ai du mal à me repérer.
C'est par là, d'accord. Et puis, est-ce qu'on peut revenir à 68? Parce que ça c'est un peu mal passé pour l'UGCML, c'est ça?
Moi,
c'est ce qu'on dit?
C'est ce qu'on dit, oui.
Vous êtes d'accord?
Je sais plus. Non, je sais plus parce que. Non, je sais plus si je suis d'accord. Je l'ai été. J'ai pensé que ça s'était mal passé, mais voilà. On fait toujours l'histoire à partir du présent. Donc, l'histoire du présent des années 69-70 n'est pas celle que je peux faire aujourd'hui. Donc. Comme d'autres, j'ai pensé qu'on s'était planté en 68. Je suis plus tellement sûr qu'on se soit planté.
Ah. Planté comment ?
Ben, c'est compliqué. C'est compliqué au sens... si on regarde les résultats, l'histoire par ses résultats... le mouvement étudiant de 68 n'a pas laissé... de cadre politique susceptible d'éclairer la route. Le seul qui surnage, puisque Robert, malheureusement, qui aurait sûrement pu donner un immense dirigeant, proche des gens, par cette pratique-là, d'aller voir, d'aller mettre le nez là où il faut, d'écouter. Le seul qui surnage, c'est Danny Cohn-Bendit, dont je ne partage pas les objectifs, mais qui conserve cette fraîcheur, cette capacité d'analyse du présent,
oui,
et de tracer des... Alors après, on n'est pas d'accord. Mais j'ai un immense respect pour lui à cause de ça. D'abord parce qu'il a dit des choses après 68 qui restent essentielles et qu'on ne dit pas. Et il dit qu'il est le seul, d'ailleurs, à peu près à dire publiquement, qui est que quand on ne peut pas comparer, on ne peut pas regarder, ce qui est difficile pour l'historien, du coup. Mais... il dit, avec juste titre, il a écrit que entre les écrits même du 22 mars, ou les nôtres encore pire, de l'UJCML, et nos pratiques, il y a une béance incroyable. C'est-à-dire que nos écrits sont staliniens, néo-staliniens, léninistes, imbitables aujourd'hui. On peut pas imaginer la langue de bois qu'on a utilisée. Donc ça... J'en ai pas honte, mais bon, quand je vois comment on a écrit les choses, la pauvreté de notre langage, la sémantique, l'absence de poésie, le calque des partis communistes, une horreur.
Mais vous étiez des sérieux, des gens sérieux, vous n'étiez pas impliqué dans la libération sexuelle.
C'est vous qui dites ça.
Non, mais c'est une question, c'est toute une question. Non, mais
la question n'est pas, d'ailleurs, parce que ça, c'est recalé. Je vous dis simplement, je reprends ce que dit Cohn-Bendit, je le prends à mon compte aussi, entre cette pauvreté et la richesse des rapports existants entre nous, il y a une béance incroyable. Et nos initiatives, et l'enthousiasme, et la manière dont on a mené un certain nombre de choses incroyables, alors, en sachant que 68, pour nous, ça commence en 66... Et pour moi, ça va jusqu'à 75. Hein, c'est pas. Mais 68, ça veut rien dire.
Non,
donc ça commence bien avant et ça se poursuit assez longtemps. Bon, au plus tard 75, plus probablement 73. Bon, enfin, il y a encore des marques, toute l'histoire des LIP et bien d'autres choses qui se sont passées après. Mais en évidence, le fait que le mouvement n'était pas mort. Mais enfin, à partir d'un certain moment, c'est mort et enterré.
Mais est-ce que pour vous...
La richesse, c'est ça. C'est alors, après, quand on dit... je prends, par exemple, je sais la certitude, je mets ma tête à couper. Quand on a constitué le JCML, nous étions anti-staliniens.
Oui.
Complètement. Les huit, là, qui étaient là, étaient contre Staline. Après, on a revêtu, par opportunisme. Alors, c'est là où, pour avoir pour avoir l'onction du Parti communiste chinois.
Mais le Parti communiste chinois n'était pas stalinien, non ?
Ben, il avait la photo de Staline.
Oui.
C'est tout compliqué. Nous avons vécu la révolution culturelle comme une révolution anti-stalinienne.
Oui.
Et on a cru ce que disaient les Chinois. C'est-à-dire quand on nous dit, c'est pour ça que le langage de nos publications par rapport au nôtre vécu n'a rien à voir. Hein. Quand on faisait nos formations, on reprenait les textes de la révolution culturelle en disant la révolution culturelle est l'héritière de la Commune de Paris.
Ouais.
À l'assaut du ciel, c'était le romantisme le plus total. Feu contre le quartier général, feu contre l'appareil du parti, on a tout utilisé contre le Parti communiste français comme structure d'oppression.
Oui.
Bon, ça c'est le début. Mais ensuite, il y a les Albanais, les Chinois eux-mêmes, ils ont une politique opportuniste. Enfin, opportuniste, ils ont leur politique. Puis on découvrira ensuite que c'est une politique interne d'une clique du parti contre une autre clique du parti. Mais ça, on était incapable de le voir au début de la révolution culturelle.
Bien sûr.
Moi, j'avais été en Chine avant la révolution culturelle.
Ah bon ?
J'étais en 60... Quelle année j'étais en Chine ? Je sais plus. Dans un collectif un peu compliqué... organisé, y compris avec Porchès, tout ça, c'est... Ouais. Parce que, bon, si on regarde tous les réseaux qu'on a constitués à cette époque, c'est très compliqué à démêler. Mais moi, mon boulot, c'était... avant que je parte en Algérie, je travaillais dans une agence de voyage qui s'appelait Voir et Connaître. Et Voir et Connaître était une agence de voyage qui finançait en réalité le PSU. Et qui avait financé notre travail pendant la guerre d'Algérie aussi.
D'accord.
Où il y avait plein d'anciens résistants, du FTP, même des gaullistes, du BCRA, des anciens du BCRA, donc des services secrets gaullistes. C'était un truc, les gaullistes de gauche, qui étaient un peu dans l'extrême gauche à Londres, qui étaient au BCRA, avaient un réseau qui fonctionnait très bien,
ouais.
Je peux dire. D'accord. Très très bien, qu'ils avaient conservé. Donc, ils ont pris des jeunes comme nous,
ouais.
Qui trouvaient bien, et ils nous ont formés dans une technique qui était le tourisme, très utile.
Ah, d'accord.
Comme le communisme. On avait fait la même chose pendant... Bon, donc, vous voyez bien qu'avec le tourisme, ce qu'on peut faire. Donc moi, je suis rentré dans cette agence comme salarié. J'y ai rien fait alors de révolutionnaire. Rien du tout.
Oui.
Mais on aurait pu. Sauf que je savais, bon, on s'en servait pour des tas d'autres choses. Bon, peu importe. Mais quand je suis parti en Algérie, que je suis resté en Algérie, c'est Jean-Jacques Porchès qui a pris ma place.
D'accord.
Quand je suis revenu d'Algérie, c'est lui qui a organisé techniquement notre voyage en Chine, où sont venus plein de militants communistes, oppositionnels, sans passer par le parti, pour rencontrer le Parti communiste chinois. D'accord. Et nous avons rencontré le Parti communiste chinois. Mais là, à l'époque, on n'était pas du tout maoïste. On était anti-impérialiste. Enfin, moi, j'étais anti-impérialiste. Oui. Ceux qui m'accompagnaient aussi, c'était guévaristes, etc. On voudrait comprendre qu'est-ce que c'est la rupture entre les Chinois. Et on voulait rencontrer les Chinois à haut niveau. Et on les a rencontrés, d'ailleurs, pour qu'ils nous expliquent la rupture sino-soviétique. Qu'on ne comprenait pas en France. On n'avait pas les éléments. On ne savait pas. Bon. Donc, on était...
Vous impressionnés ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, ils nous ont impressionnés, on a visité des tas de choses, ils nous ont très bien accueillis. Mais nous étions des jeunes communistes français, pas que des jeunes, il y avait aussi des vieux, qui étions très très... Ils n'ont pas apprécié du tout, les Chinois, notre manière de faire. Puisque ce groupe était composé de gens qui étaient déjà critiques de l'appareil du PC, donc qui posaient des questions, y compris emmerdantes avec les Chinois.
D'accord.
Donc quand on s'est quitté, on s'est pas très bien quitté. On a eu, enfin, moi qui étais responsable du collectif, avec notre dernière rencontre, mais ça c'était avant la révolution culturelle. Ça m'a au contraire conforté dans l'idée, puisqu'on s'est mal quitté, Il répondait pas bien à nos questions, et il y avait la même langue de bois qu'avec le PC. Il y avait des trucs très très bien qu'il nous disait, ouais. Mais il y avait des choses qui nous plaisaient pas, on sentait que bon, etc. Ouais. Et le collectif n'est pas parti pro-chinois, du tout.
D'accord.
Il était en questionnement et bien critique, il était très en questionnement vis-à-vis des Russes, très en questionnement vis-à-vis des Chinois, et il n'était pas du tout pro-chinois. Il est rentré enrichi,
ouais. Hein,
enrichi, parce qu'il nous avait dit des choses, mais pas du tout pro-chinois. Et quand moi, on a vu là, alors évidemment, ça par rapport à l'UJCML, bon, ça n'a pas changé grand-chose, enfin, ce qui venait, puisque, bon, on restait un peu dans cet anti-impérialisme dans lequel les Chinois jouent un rôle important et que la rupture sino-soviétique faisait sens.
Oui.
Dans ce que vous dites, c'est-à-dire dans cette vision anti-impérialiste dans laquelle, assez proche du fanonisme, hein, que oui. Du fait que viendraient des peuples du monde et de leur révolte une architecture nouvelle des rapports entre...
Oui.
Bon, ça, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça jouait dans notre vision des affaires. Mais ensuite, quand est venue la révolution culturelle, c'était l'enthousiasme, puisque justement, c'était la lutte contre l'appareil.
D'accord.
C'était la lutte pour régénérer un parti qui s'était bureaucratisé comme le parti soviétique. Donc on y a cru.
Oui.
On y a cru beaucoup. Et surtout, que rappelez-vous que leur premier texte, c'était vraiment une référence à la Commune de Paris. On retrouvait pour moi tout ce qu'il y avait de romantique dans la Commune de Paris, de patriotique, de porteur du fait que la France n'était pas un petit pays, mais au sens... moi, j'ai toujours...
Une tradition révolutionnaire.
Tradition révolutionnaire, mais mondiale, humaniste, oui. Transversale, fraternelle... Les Polonais sont des Français, les Français, bon, hein, je veux dire, bon, tous ceux qui veulent, et Français qui veut, hein, c'était oui. notre oui. idée de la Commune de Paris, et Français qui veut, dès lors que vous portez les valeurs universelles de la fraternité et de la lutte contre l'oppression, vous êtes Français, hein, c'était ça qu'on voyait, donc, et les Chinois nous disaient ça, la Commune de Paris, non, ça, évidemment, t'es fier, il y avait de quoi. Donc voilà.
Mais pour revenir à 68, est-ce que dans votre vision anti-impérialiste, un peu ouvrière, le mouvement étudiant n'était pas pour grand-chose, c'est ça
alors,
que vous voulez dire?
Après, à l'intérieur de l'UJCML, il y a eu plusieurs mouvements de critique. Moi, je ne veux pas revenir sur l'histoire de l'UJCML, elle est dans plein de bouquins.
Bon, oui.
Vous connaissez comme moi, puis vous pourrez lire ça. Mais on a fait plusieurs mouvements de critique successifs, qui ont abouti à ce qu'on appelait la campagne d'établissement. Le oui. premier mouvement, c'était sur « qui n'a pas fait d'enquête n'a pas le droit à la parole », c'est-à-dire le fait qu'il fallait qu'on sorte de l'idéologie et que nous ne pourrions pénétrer, puisque quand même déjà l'UJCML se voyait comme le Parti communiste nouveau. Hein.
Oui.
On était complètement débiles. Hein. Non, mais...
Non.
On a pensé vraiment qu'on allait faire un nouveau Parti communiste. Pas seul hein. Ça, aucun d'entre nous n'a pensé ça. Pas assez fou que ça. Mais enfin, on a pensé que notre petit collectif de départ, avec ses capacités intellectuelles et très vite son influence de masse, c'était oui. quand même très très vite pour l'UJCML.
Oui.
Personne ne l'imagine aujourd'hui, puisque tout le monde parle que des trotskistes, mais alors nous, on a été incroyables. Les journalistes du monde qui nous tournaient autour, tout le monde voulait nous parler, tout le monde voulait nous rencontrer, tout le monde voulait nous voir. Et on était quand même assez clando. Hein. On faisait très attention, pas sortir trop et tout ça. Donc on a pensé qu'avec d'autres, on serait en capacité de reconstruire un nouveau parti communiste, révolutionnaire, d'extrême gauche.
Oui. Bon.
Ça, je pense qu'on y a cru.
Oui.
Mais ça, franchement, on y a cru. Moi, en tout cas, je l'y ai cru. On avait en plus des cadres. Robert était un cadre exceptionnel.
Oui.
Exceptionnel. Bon, j'en ai rarement rencontré de ce niveau de ma vie. De générosité, de fraternité, d'écoute. Aussi, il y avait beaucoup de défauts, bien entendu. Mais un vrai cadre.
Oui.
Un vrai cadre dirigeant. Sachant unir. Donc quand on a fait tous ces mouvements, enfin je ne vais pas reparler de Robert, mais quand on a fait tous ces mouvements, les uns après les autres, il y a eu d'abord cette volonté d'aller à l'enquête, puis il y a eu l'établissement.
Oui.
Donc, quel était l'objectif de l'UJCML? C'est pas l'objectif du mouvement étudiant, du tout. Non. Poser la question, c'est l'objectif de construire un parti communiste avec les ouvriers. Et avec un peu une vision gramscienne qui était... alors que, bon, personne ne parlait de Gramsci à l'époque. En tout cas, pas dans nos rangs. Hein. Qui était complètement contre la culture du Parti communiste français, de l'alliance des intellectuels et des ouvriers. De trouver des ouvriers philosophes. Moi, j'avais le mien. Charlot Dusnasio, donc moi, j'avais le mien depuis toujours. Donc, qui est devenu Mao. Enfin, alors là aussi, il y a une histoire un peu compliquée. C'est que l'éclage avait été en Chine en 55. Dès après la...
Ouais, d'accord.
Et donc le mouvement, on s'est retrouvé aussi sur, mais avec une autre vision de l'anti-impérialisme. Avec la guerre d'Algérie, nous avait en plus rassemblé très fort avec les, enfin moi avec les Clages et d'autres copains qui avaient fait ça avec moi. On s'est retrouvé quand il y a eu la révolution culturelle, eux d'une certaine façon, pas la même que la nôtre, oui. Mais nous notre idée c'était que il fallait des ouvriers philosophes et des intellectuels ouvriers. Et que donc la fusion ne pouvait passer que par l'immersion de nos cadres dans la classe ouvrière, d'où l'établissement.
Oui.
Là, je pense que plus que l'influence des Chinois, c'était l'influence vietnamienne, du Parti communiste vietnamien, qui avait fait des textes là-dessus sur... incroyable d'ailleurs, si on les relit. On...
Ah ouais, d'accord.
Dans lequel beaucoup de cadres du parti Front de Libération Nationale, hein, enfin du FNL, du Front National de Libération vietnamien et du Parti communiste vietnamien.
C'était la ligne de masse, ça s'appelait.
La ligne de masse, mais c'était. Déjà, ils avaient une politique d'établissement qui était. Ils envoyaient des cadres dans les campagnes, enfin dans, là où il n'y avait pas encore de. Et on racontait, alors nous on trouvait ça génial. Bon, aujourd'hui, on peut chier la honte, mais enfin, je sais plus, un cadre qui s'était fait scier les dents pour être, parce qu'il y avait, je sais plus, chez les Méo, ou je sais plus dans quelle tribu, travailler avec les Américains, bon, pour enfin, voilà, un mec qui s'était fait scier, enfin, bon, partager la vie. Moi, j'ai gardé toujours une citation du président Mao que je continue à aimer beaucoup, que je dis toujours, d'ailleurs, partout, c'est, il y a ceux qui traversent le champ, et ne voient pas les roses, il y a ceux qui arrêtent le cheval pour regarder les roses, et il y a ceux qui descendent du cheval pour sentir l'odeur des roses.
Ouais,
et nous, c'était ça notre idée, c'était sentir l'odeur des roses. Ouais. C'était d'être toujours avec... Et les roses, pour nous, c'était les travailleurs. D'accord. C'était la classe ouvrière. C'était le peuple. Donc vivre au milieu du peuple, travailler au milieu du peuple, c'était l'essentiel. Donc, ouais. D'où l'établissement. L'établissement dans les usines. Donc pour nous, JCML, de l'époque.
Oui.
Ce qui nous intéressait, c'était construire ce qu'on appelait la CGT de lutte de classe. Hein, donc vous avez eu, si vous verrez oui. Ça dans Service du Peuple, vous l'avez vu. Et d'où, aujourd'hui on peut le dire, notre travail dans certaines usines, l'usine numéro 1, c'est assez rigolo, étant l'usine Perrier de Vergès. Donc, on faisait comme les Chinois, là où on avait une implantation d'une cellule communiste, parmi les ouvriers, tac, c'était l'usine numéro 1, l'usine numéro 2, bon, avec des luttes ouvrières, etc. Reconstitué à partir de 1966, il y a des luttes ouvrières radicales en France, donc bien avant 68, à Chausson, à Cléon, enfin bon, dans certaines usines, et dans lesquelles notre intervention n'est pas complètement vaine.
D'accord.
Nous rencontrons une adhésion de la jeunesse ouvrière qui ne se reconnaît pas dans la vieille CGT.
D'accord.
Et qui est déjà, elle, dans la révolte. Une autre révolte que celle du mouvement étudiant, mais une révolte de la jeunesse ouvrière.
Oui.
Et donc, quand se développe mai 68, tout ce qu'on a appelé l'idéologie du complot développée par Robert, mais qui était là, lui, en phase de développement de la maladie, pour moi, par aussi nos responsabilités vis-à-vis de lui, c'est-à-dire qu'à part moi, il y avait très peu de gens qui s'engueulaient avec lui. Moi, parce que j'avais eu la chance, pas parce que j'étais plus courageux que les autres, de le connaître avant, je pense que ça jouait un rôle.
Oui.
J'étais plus âgé aussi, il y avait une question d'âge, beaucoup plus âgé, et puis respecter mon expérience, quelque part. On avait des rapports un peu différents. Mais, vous voyez, cette... Merde, j'ai pas été changé, bon, il faut que j'aille mettre des pièces.
Vous posez un peu.
Je finis ça, puis on va mettre des sous dans ma voiture. Donc nous, à ce moment-là, cette idéologie du complot, c'est il l'incorpore dans une vision mégalomaniaque. Mégalomaniaque, mais il l'incorpore dans l'idée, dans son idée, qui va retrouver une certaine audience chez nous.
Oui.
Que le mouvement est fait pour nous écarter de cette construction du parti, que c'est le petit bourgeois qui. Et que nous qu'on est dans les usines, nous qu'on est le parti en construction, nous qu'on est dans ce développement du mouvement de soutien à la lutte du peuple, vous voir ce que aussi il y avait le MSLP, la cause du peuple naît là. Hein, le journal La Cause du Peuple, c'est pas le journal de l'UJCML, c'est le journal du mouvement de soutien aux luttes du peuple qui reprend l'acquis du comité Vietnam de base,
d'accord,
mais le transforme dans la lutte en France. C'est les mêmes méthodes d'organisation, de masse, le même travail, etc. Mais au lieu, un peu, on le retrouvera dans un très bel article, le dernier, je crois, qu'a fait Robert Ménard dans Le Monde, qui s'appelle une péniche pour ou un bateau pour Longwy, je crois, une péniche pour Longwy par rapport à un bateau pour le Vietnam, sur au moment où de j'ai oublié le titre de cet article, qui était très bien, après mai 68, qui disait attendez, il n'y a pas besoin de faire un bateau pour le Vietnam, faut aller à la défense des sidérurgistes de l'Est,
oui,
du bassin de la France, du bassin. Ça doit être un bateau pour Longwy ou un truc comme ça, ou péniche pour Longwy. Alors bon, voilà, ça a recouvré une réalité chez nous. C'était que l'ensemble des forces qui étaient en mouvement ne pouvaient pas être distraites du front que nous considérions comme essentiel, qui était l'établissement et la construction. Alors, premièrement, c'était une connerie, comme je dis, mégalomaniaque. Moi, j'ai assisté à la dernière séance, et je suis le seul à m'être engueulé avec Robert. Il me l'a dit, il m'avait envoyé une lettre après, quand il allait bien, pour me remercier de ma fraternité à son égard.
Oui.
Mais parce que il y avait déjà le culte de la personnalité. Comment le centralisme démocratique et sa perversité incroyable, le rôle du bureau politique, du J, on se croyait, non, franchement. Enfin, moi, j'avais été ramené à la base, pour des tas de raisons. Pas rentrer dans toute l'histoire de tout ça, mais j'étais plus au bureau politique à ce moment-là. Et donc j'étais pas encore établi. Si, j'étais déjà établi, pardon. J'étais établi. J'étais établi. Mais j'étais plus au bureau politique. Mais j'étais dans un rapport direct avec eux, puisque pour la cause du peuple, bon, puis j'étais un ancien dirigeant et tout le monde me pensait comme dirigeant. Et moi aussi, je me pensais moi-même comme dirigeant, quelque part. Alors, cette orientation liée à la mégalomanie pendant tout un temps, c'est pas vu. Sauf quand on voyait qu'il disait que des conneries. Enfin, je veux dire, qu'il y avait un côté d'une parole incapable de s'auto-censurer, de s'auto-critiquer. On avait perdu toute cette idée qui n'a pas fait d'enquête, n'a pas fait pas le droit à la parole.
Ouais. Hein,
on réfléchissait plus au fait que c'était les jeunes ouvriers qui venaient au quartier latin, etc. Toutefois, vous me dites maintenant, comment on pense? J'ai le souvenir d'immenses choses qu'on a faites pendant mai 68, et en particulier, les seules manifs de masse qu'il y a eu dans la banlieue, c'est nous qui les avons organisées.
Ouais.
J'ai le souvenir d'une manif formidable à Saint-Denis, où UCML a entraîné des milliers et des milliers de gens à Saint-Denis, avec drapeau rouge et tout, avec les... Et alors Saint-Denis, pourquoi? Parce que l'histoire du Parti communiste français, Doriot, le social-fascisme, enfin tout ce qu'on veut, mais des centaines et des centaines d'ouvriers qui sortaient des usines, qui voyaient ces drapeaux rouges, etc. C'était d'une beauté en plus, on avait un rapport à l'esthétique qui était quand même pas mal, qu'on a toujours eu, qu'on retrouvera dans Vive la Révolution. Ça, c'est l'apport des copains des Beaux-Arts, c'est Castro, c'est tout ça. Donc un rapport au beau, qui a toujours été très fort dans l'UJ, puis ensuite à Vive la Révolution. On a fait vraiment des choses que personne, aucune autre organisation n'a faites.
D'accord.
Donc vous me demandez aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? reste pas beaucoup de cadres. Quand même, quel que soit le respect profond que j'ai pour Krivine, c'est un échec, la Ligue communiste révolutionnaire. D'ailleurs, c'est Besancenot qui la représente. Je veux dire, c'est autre chose, Besancenot, c'est une autre... bon.
Ouais.
Alors, je ne sais pas si c'est un échec, Besancenot, mais enfin, c'est pas... Quand on voit ce qu'ils ont loupé là, avec les élections présidentielles, même s'ils sont plus nombreux, c'est une petite partie de merde. Bon. Bon. Castro, vive la Révolution. Il aurait aussi pu être un grand dirigeant. Il en avait toutes les capacités. Imagination, etc. Mais... il ne l'a pas été. Je parle des gens connus. Weber. C'est vraiment qui est dans le Parti Socialiste? Aucun. Il n'y a pas de dirigeant issu, enfin de dirigeant au sens... C'est pas le goût du dirigeant, c'est le dirigeant qui n'est pas dans le cadre hein, du centralisme démocratique. Ouais. Les gens qui sont issus du combat.
Ouais, d'accord.
Je ne dis pas les dirigeants formés par l'appareil.
Ouais.
Pourquoi est-ce que, en réalité, Dany a toujours cette influence? C'est qu'il n'est porté par aucun appareil. Il est porté par l'histoire de mai 68. Même s'il a quitté cette histoire, comme son ton critique, sa liberté de parole, sa liberté de ton,
ouais,
sa capacité de critique, c'est pas moi ce que je pense, est resté intact.
Ouais.
Il est immensément sympathique,
ouais,
par rapport à tous les appareils.
Ouais, d'accord.
Mais qui sont les dirigeants? Il y a actuellement en France, il y a une seule personne qui est issue des luttes, c'est Thibault à la CGT. Personne d'autre.
Ouais.
Vous ne trouvez aucun dirigeant issu des luttes. Et le mouvement de mai 68 n'a laissé aucun dirigeant issu des luttes qui ait de l'autorité sur une autorité morale, politique, comme a pu, bon, même si elle a été écrasée par le Parti communiste, je pense à Tillon. Il suffisait qu'il aille dans un coin de la France, le Parti communiste pouvait faire ce qu'il voulait, il y avait tout de suite des centaines de mecs qui étaient prêts à l'accueillir. Parce que l'histoire des FTP est une immense histoire.
Oui, oui.
Bon. Mais c'est pas l'appareil qui a fait Tillon.
Non.
C'est l'action, c'est la manière dont, etc. Bon, je parle de notre génération. Mais la génération de mai 68 n'a pas réussi à créer des cadres dirigeants capables d'être issus, comme ouais, l'ont été, effectivement, un certain nombre de dirigeants du PCF, après la guerre, parce qu'ils avaient, et qui n'étaient pas ceux de l'appareil, justement. Pourquoi ils ont tous été éliminés, Tillon, Casanova, tout cela, tous ceux qui finalement étaient soit dans la guerre d'Espagne, soit la direction des FTP ont été liquidés les uns après les autres comme dirigeants, ouais, naturels,
ouais,
porteurs, ouais, d'une action. Hein, même, enfin bon, Le Cœur, enfin bon, tous ceux qui avaient fait des choses et qui avaient été, ouais, reconnus pour ce qu'ils faisaient et pas pour n'importe quoi, bon, ils ont été tous liquidés par leur appareil. Ben, mai 68 n'a apporté finalement aucun de ces cadres qui sont capables d'être reconnus pour ce qu'ils ont fait plus que pour ce qu'ils disent.
D'accord.
Sauf, quelque part, je trouve, Dany Cohn-Bendit. Alors que ce n'est pas mes perspectives à moi. Donc ça nous ramène, quand vous me dites, est-ce qu'aujourd'hui le GSCML s'est trompé? Je dis oui, du fait de la mégalomanie. Mais je dis quand même qu'il est resté parmi les travailleurs que nous avons contactés à l'époque, et parmi leurs enfants probablement, enfin quand je dis enfants, ça peut être soit des enfants biologiques, soit des enfants... qui ont suivi une trace libertaire, comme ça, trace libertaire puissante, qui, à mon avis, existe encore dans le mouvement de masse. On l'a vu un peu avec la Confédération paysanne, avec Beauvais.
Oui.
Pas tellement Beauvais comme Beauvais, mais la Confédération paysanne.
Oui.
Comment elle a réussi à être une organisation de masse. On le voit dans certaines organisations. Je pense que le syndicat auquel j'ai attaché ma vie, après le syndicat des avocats de France, a porté et porte encore des traces libertaires. Le syndicat de la magistrature, sûrement. Des aspects dans la médecine d'urgence. Enfin, il reste des traces. Il n'y a pas de dirigeant, mais il reste des traces organisationnelles et d'idées libertaires.
Oui. Ouais.
de l'extrême-gauche libertaire, mais pas d'une extrême-gauche stalinienne ou d'une extrême-gauche organisationnelle, mais, j'allais dire, il y a des endroits, il y a plein d'endroits dans lesquels les idées de mai 68 restent très présentes, bien que ça ne soit pas des leaders de 68 et des dirigeants de 68. C'est ça qui est con. Donc maintenant, est-ce qu'on a bien fait d'aller vers ça? Je dis oui, puisque c'est ça qui reste. Alors dans VLR, quand on a dit, puisqu'au moment de la dissolution, de vivre la révolution, le mot d'ordre qu'avait proposé Castro, mais qui, je pense qu'il ne l'a pas lui-même poussé, c'était s'établir dans la ville, s'établir dans la vie. Bon, ben, il y a eu beaucoup de copains qui ont fait ça.
Oui.
Dont je pense être, mais et d'autres encore, beaucoup d'autres. Et la manière dont ils sont établis dans la vie fait qu'il y a des traces beaucoup plus fortes qu'on ne le dit.
D'accord.
Et que ceux qui prétendent aujourd'hui parler, parce qu'ils ont été dans les médias pendant des années, comme des anciens combattants de mai 68, c'est plus des combattants de mai 2008.
Hein? D'accord.
Et je pense qu'il y a encore quelques milliers de combattants de mai 2008 ou de leurs enfants directs, leurs enfants idéologiques,
ouais.
leurs enfants politiques et organisationnels. Et j'en vois partout.
D'accord.
Donc oui, on s'est trompé sûrement, du fait même de cette mégalomanie organisationnelle dont on peut parfaitement expliquer l'histoire, y compris le calage du bureau politique de l'UJCML sur le parti, les partis de tradition de centralisme démocratique. Mais pour le reste, je pense que quand je parle avec des jeunes de 40 ans aujourd'hui que j'ai connus, je trouve qu'on a de bons héritiers.
Oui. Je peux poser une question sur VLR?
Oui, mais on va aller. Alors, je voudrais bien essayer de ne pas avoir de.
On pose.
Oui, on fait une pause si vous voulez après.
Oui.
Voilà. Ça marche,
bon. Bon. Vous avez utilisé le mot libertaire à un certain moment. Et je me demande si la naissance de VLR a été quelque chose de beaucoup plus libertaire que
l'UJCML. Oui, forcément. Enfin, je pense très vite, pour certains d'entre nous, on s'est dit communiste libertaire, oui. Voilà. De toute manière, toute l'expérience précédente était avant l'UJCML, de certains d'entre nous, en tout cas de moi, était une expérience militante qui s'était faite en dehors des structures.
Oui.
Et dans cette capacité d'organiser par la base, que c'était pendant la guerre d'Algérie, que c'était en Algérie même d'ailleurs, au retour, au début de l'UJCML, certainement. Bon, après, la période, elle est finalement assez courte dans ma vie, la période du JCML.
Oui.
PCF-JCML, j'allais dire, parce que j'ai quand même adhéré au parti aussi pendant cette période. Un parti, d'ailleurs, qui, à l'époque, bougeait. Hein, bougeait plus qu'il l'a fait après sous la férule de Valdecrochet. De marché. Il y avait encore des dirigeants avec lesquels on parlait. On arrivait à discuter avec Roland Leroy, d'égal à égal.
Oui.
Pour l'UEC, j'entends. Mais même dans ma cellule et dans ma section, on débattait. Il y avait des gens, il n'y avait pas que moi, mais enfin, c'est vrai, quand il y a des gens qui ont un peu d'expérience politique, ça débat. Ça ne veut pas dire que c'était facile, mais bon, moi, ma section, ma cellule ne m'a jamais exclu, malgré les demandes d'exclusion qui ont été faites après. Donc je suis parti sans être exclu. Il est clair que très très vite. Alors après, c'était Mao libertaire, c'était Mao Spontex, c'était communiste libertaire. Ça dépendait un peu de nos zones d'intervention. Parce que la manière dont vive la
révolution est née, mais ça, d'autres l'ont raconté déjà, c'est dans plein de bouquins.
Oui.
C'est les petits groupes qui n'ont pas accepté, au moment de la dissolution de l'UJC-ML, la manière dont Benny Lévy a pris la direction d'une partie de l'UJ, qui était finalement la partie minoritaire, mais il s'est appuyé sur l'appareil militaire, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, l'appareil de lutte antifasciste, anti-impérialiste et de militants qui étaient plus armés sur le plan des sports de combat, disons. Et ça s'est fait quand même de façon très violente, cette prise de, avec beaucoup d'injures.
Et le pouvoir, même.
Oui, oui. Oui, tout s'est fait violemment, enfin très très violemment. Aujourd'hui, ça me fait rigoler quand je vois les... comment il s'appelle ? Le grand philosophe, là, qui va avoir monsieur Sarkozy. comment il s'appelle ? Glucksmann.
Oh, Glucksmann, oui.
Tous ces types-là, même après ceux qu'ils avaient pris dans le 22 mars, Serge Julie, tout ça. Mais oui, ils n'étaient pas de l'histoire du JCML. Enfin, tous ceux du JCML qui sont passés sous la férule, j'allais dire, de Benny Lévy, c'était violent, enfin. Ça a été dur, douloureux, plein d'injures, plein de violences, plein de menaces. Menaces avec des gens qu'on avait, pour certains, beaucoup aimés, comme des camarades, avec lesquels on avait milité pendant pas mal de temps. Pas énorme, enfin.
Mais c'était une question de personnalité, ou de stratégie, ou d'idéologie, ou de quoi ?
Je sais pas, je n'ai jamais eu beaucoup de sympathie pour Benny Lévy, donc ça m'est... Beaucoup de sympathie, c'est compliqué, c'était un homme très 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 particulier. Je vous dis ça parce que pour moi, ça a été le seul moment dans ma vie où j'ai eu envie de me suicider, c'est à la suite d'une intervention de Benny Lévy.
Ah bon ?
Au bureau politique de l'UJCML. On a eu des engueulades très, très fortes sur lui, en particulier sur mes tendances ouvriéristes et mes rapports avec l'éclage, qui était considéré comme populiste. Opportuniste. Et il a eu cette phrase qui m'a vraiment à la fois bouleversé et puis bouleversé, oui, et puis qui m'a fait m'interroger, et ça c'est avant 68, hein. Et qui m'a mis en tout cas sur le côté ensuite, et puis je me demandais ce que je faisais, donc je me suis au contraire comment dire, assommé par le travail militant après, pendant une période qui a fait que j'étais pas vraiment dans la réflexion. C'est une phrase terrible qui dit: nous autres communistes, nous sommes les fonctionnaires de la pensée correcte. Et cette phrase, pour moi, alors prononcée, c'était un moment où Robert était présent. Mais il était malade, c'était le moment du passage de... Robert était rentré d'une période de maladie, où il avait été, déjà avant 68, écarté de la direction parce qu'il était malade. Mais on ne savait pas ce qu'il avait, vraiment. Au moment où il est revenu, Benny l'avait remplacé, mais sans que ça soit... un remplacement provisoire et sans que les choses apparaissent comme devant être lui le dirigeant. Là, il avait changé de pseudo, je crois, déjà. Il s'appelait déjà Victor, Pierre Victor. Et donc il a eu cette phrase.
C'est pas tellement ça qui m'avait terrifié, c'est le silence des autres. Enfin si, c'était ça déjà la phrase pour moi, elle était la négation complète de ce que je croyais que nous étions. Sûrement pas des fonctionnaires de la pensée correcte. Et le silence des autres, parmi ceux qui sont restés ensuite mes amis, pour certains, qui sont venus à VLR aussi, pas tous, parce que, là, au contraire, la direction s'est cassée, ça a été un coup terrible. Donc c'est vrai que, bon, j'étais en réticence. Bon, après, en mai 68, je l'ai pas mal, quand il était dans la clandestinité, je l'ai pas mal baladé, dans la clandestinité, transporté, trouvé des planques et tout. Mais, bon, je sais pas, c'est un personnage... je n'ai jamais cru... qu'il aimait les roses.
Ah bon?
Voilà.
D'accord.
J'ai jamais pensé que sa vision... comment dire? Robert, comme moi, avait une passion sur l'histoire de France.
Oui.
Sur l'histoire de notre peuple. On avait... un certain nombre de... Ça nous tenait aussi avec Pierre Goldman. On avait pour les FTP une admiration très très forte. Pour un certain... En tout cas pour toute l'équipe de la Moy, sûrement. Mais pour d'autres aussi, de l'histoire de... Bon... pas rentrer dans plein de détails, parce que c'est...
Il n'avait pas la nationalité française, donc on m'a dit qu'il ne pouvait pas sortir dans la rue, c'est ça? Donc c'était un intellectuel chez lui, c'est ça? Ça, c'est une partie du problème.
Est-ce que ça empêchait Manouchian de mener la lutte?
Non, mais ça c'est... un choix.
Un choix, mais...
Il a fait un choix de rester chez lui, c'est ça?
Non, mais bon, moi je ne veux pas parler, il est mort en plus. Voilà. La seule chose que je dirais, c'est cette phrase, parce que cette phrase m'a... Ouais. Il est mort, je voulais... Moi, je m'étais dit, là, vous m'embarrassez, parce que je m'étais interdit d'écrire avant 60 ans. J'ai bientôt 70. Quand je me suis établi à Mantes-la-Jolie, on en avait parlé avec ce qu'on appelait les copains de mon unité, et puis avec Françoise, avec d'autres. J'écrirai pas avant 60 ans. Rien. Sur le passé.
Oui.
Pourquoi? Parce que ce passé était très fort, et que je crois pas qu'on puisse être... être juge de son propre passé comme ça, bon, probablement d'ailleurs je vois mieux aujourd'hui les choses, mais que j'en parle très rarement, là, vous sortez de mon truc, mais... Puis après, moi j'ai eu la chance de rencontrer Gorce, c'est lui qui m'a... C'est une immense chance dans ma vie, il y a deux hommes qui m'ont formé, sûrement, c'est Charlot Dugnasio et Gorce, les deux. Là, j'ai rencontré un grand frère, un vrai intellectuel, un intellectuel sublimissime. Anard, comme nous, enfin, communiste libertaire, je pense. Enfin, Anard, je ne veux pas dire Anard.
Vous écrivez son nom?
Gorce, vous connaissez pas? André Gorce.
Non, c'est la première fois que je rencontre son nom.
Non, ben, c'est un grand théorien. Enfin, il vient de mourir, là aussi.
G-O-R-C.
Z. Ah. Mais il avait plusieurs noms, Michel Bousquet, il est parfois connu sous le nom de Michel Bousquet, et il s'appelle pas plus André Gorce que moi, puisque son vrai nom est encore un troisième nom.
D'accord.
Mais c'est un grand théoricien français, c'est le... Même tout le monde est en train de le relire, on vient de rééditer des trucs, bon, c'est un des plus grands intellectuels de ce pays. Immense intellectuel, qui laisse une trace aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout, enfin bon, c'est un... Ça a été pour nous tous, en tout cas pour la bande dite de l'Avgel, je pense Kravets, Péninou, Bougreau, je cherchais le nom de Bougreau.
Oui.
Marie-Noël Thibault, enfin et plein d'autres. Évidemment, Gorce était l'autre grande voix intellectuelle sartrienne, mais en même temps Sartre impliqué dans les luttes ouvrières, dans la société. Enfin bon, c'est un immense théoricien. Hein. Bon, je suis étonné que vous le connaissiez pas. Mais bon, là, il faut. Et je vous recommande son dernier livre qui est d'une beauté absolument. Il vient de se suicider. Vous avez pas entendu ça?
Non.
Avec sa femme.
Ah oui, ça me dit quelque chose.
Lettre à B, son dernier livre.
Oui, d'accord.
Au moment où il se suicide, c'est un testament magnifique.
Oui, non, ça me dit quelque chose maintenant.
Bon, enfin, c'est un immense bonhomme, immense dans sa générosité, immense dans son.
Et vous l'avez rencontré à ce moment-là?
Je l'ai rencontré quand j'étais à VLR, oui. Il est venu nous rejoindre, parce qu'on faisait comme les Italiens de l'Otta Continua, on faisait ce qu'on appelait le travail de porte à VLR. Enfin, dans mon travail à VLR, c'était Flin, c'était l'automobile,
oui.
Les ouvriers d'automobile. Et il est venu nous voir parce qu'il voyait bien qu'il se passait quelque chose, et on a fait des choses tout à fait aussi exceptionnelles et formidables à ce moment-là, à VLR, dans ce segment-là. Castro, on a fait d'autres, enfin, on a fait ce qu'on a fait, dont je suis toujours aussi fier, j'ai rien à rougir de tout ce qu'on a fait à ce moment-là, au contraire. Et il est venu nous voir, et donc au lieu de faire un truc de journaliste, il est venu, un peu comme Robert, sentir l'odeur des roses, rencontrer les ouvriers avec lesquels on travaillait, discuter avec nous de notre travail politique et auprès des ouvriers en dehors de la CGT et notre influence de masse qui était importante à ce moment-là chez les ouvriers de l'automobile, enfin dans le bassin de la Seine, à Flin en tout cas. Et donc il est venu et puis c'est pareil, on ne s'est pas quitté de la vie. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un. Enfin, si, on s'est quitté à partir d'un moment, mais on s'est retrouvé après. Donc j'ai eu cette chance-là de rencontrer ce bonhomme exceptionnel qui m'a, lui, alors amené plus à l'étude d'être. Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel ouvrier ? Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel qui consacre sa vie, enfin, en tout cas l'essentiel de sa vie, aux intérêts de la défense ouvrière, populaire, des salariés, qu'est-ce que c'est, enfin bon. Donc, qui m'a probablement aidé à à sortir d'un gauchisme de la parole, et plus d'être auprès des gens, mais pas simplement. Enfin bon, il m'a contraint, en tout cas, à l'écriture.
Oui.
Jusqu'à cette période, je pense, jusqu'à ce que je rencontre Gorce, je n'ai signé pratiquement aucun des articles que j'ai écrits, que ce soit dans VLR ou que ce soit dans la revue VLR, Vive la Révolution, que ce soit dans les journaux, je n'ai aucun papier signé de ma main. Je sais ce que j'ai écrit. Mais on était dans une époque, à l'UJI comme à VLR, où on ne signait pas.
Oui.
Et quand j'ai rentré, la rencontre est suffisamment puissante pour que je signe. Et donc j'ai fait deux articles dans Les Temps Modernes, dont je peux dire que s'ils n'avaient pas été là, je ne les aurais jamais écrits. C'est-à-dire que l'idée de la responsabilité de l'intellectuel, elle me vient de Gorce, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas le droit de ne pas signer ses textes.
D'accord.
On n'a pas le droit de ne pas être responsable de son écriture, et que le seul moyen démocratique d'être contrôlé par les gens avec lesquels on milite, c'est de signer, d'être identifié à ce qu'on écrit.
Ouais.
Pour, justement, alors si on prend ce qui est très difficile dans l'histoire du J, dans l'histoire du J, de le VLR, du début, c'est que justement les textes ne sont pas signés.
D'accord.
Et que c'est facile aujourd'hui, ou difficile, de dire, enfin c'est facile pour certains de dire c'est pas moi qui ai écrit ça. Quelles qu'aient été les critiques qu'on peut faire à Serge Julli, à Glucksmann et tout ça, bon, au début ils ont quand même signé leur texte, ce qui fait que on a la capacité assez facile de les critiquer. Roland Castro, à mon avis, au début non plus ne signait pas, puis c'est bien signé. En tout cas, moi, c'est la rencontre avec Gorce qui abouti à cette révolution intellectuelle, en tout cas pour moi, qui est qu'à partir de ce moment-là, sauf les textes qu'on écrit alors vraiment collectivement, où il y a une vraie écriture collective, qui impose d'ailleurs beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de difficultés, qui est autre chose. Là, je le sais, puisque j'écris avec une autre intellectuelle, je peux dire. Beaucoup en ce moment, écrire à deux, c'est déjà difficile d'écrire un, mais alors écrire à deux, quand c'est une vraie écriture à deux, c'est un travail considérable. Dans tous les cas, là, en tout cas, pour ma rencontre avec Gorce, elle a beaucoup changé mon rapport au fait de m'accepter comme intellectuel. Je pense que jusqu'avant, je ne m'acceptais pas comme intellectuel, je ne me voyais que comme un militant. Je n'ose pas dire un révolutionnaire. Enfin, à l'époque, je devais penser ça. Je ne sais pas même...
J'ai retrouvé certains de vos textes à la BDSA. Il y a aussi, je n'ai pas vérifié dans les temps modernes, mais il y a un autre texte qui devait être publié chez l'Auteur Continua, c'est ça, que j'ai trouvé à la BDSC.
Je ne sais pas.
C'est marqué pour la... Je ne sais pas. Si... Mais ça me ramène un peu, est-ce que vous...
Mes archives, nos archives, à Françoise et à moi, l'essentiel, on les a données à mon Rotman et à la BDSC. Donc à mon Rotman, ils ne m'ont jamais rendu mes archives. Donc il y a toute une partie qui, je ne sais pas où elles sont. Mes archives algériennes, je les ai données à un copain qui devait faire un bouquin et qui est malheureusement mort, donc j'ai pas mes archives algériennes, ce qui est bien dommage. Et non, je ne sais pas, ce texte, j'en ai écrit beaucoup, c'est sûr, mais le fait qu'il ne soit pas signé fait que je sais même plus que... Enfin, je sais, il y a des textes que j'ai écrits dans Vive la Révolution qui ne sont pas signés, je sais bien qu'ils sont de moi. D'ailleurs, ça se retrouve parce qu'il y a un style qui n'est pas terrible, pas très bien écrit. Mais bon, je pense au travail qui m'a forcé à faire, parce que vraiment, enfin, forcé, j'entends, au niveau de la fraternité. On ne sortira pas ça, c'est pas bon. Tu le réécris. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc il m'a forcé à cette confrontation à l'écriture qui était, attends, ce que tu dis, c'est de la bouillie. On parle, ce que tu dis est intéressant, tu l'écris, c'est complètement nul. Réécrit, bon. Donc il a joué ce rôle de cette confrontation à l'écriture qui est quand même un truc pas simple, et qui est une nécessité démocratique, c'est-à-dire on ne peut pas être un responsable si on n'écrit pas. Et si on ne transmet pas. Donc la socialisation des connaissances se passe quand même par l'écriture, et aujourd'hui avec l'informatique ça pose des tas de problèmes, je dois dire, d'une autre nature que ceux que nous avions connus à cette époque, dans le mouvement populaire en tout cas, d'aujourd'hui. L'informatique joue un rôle difficile à cerner, mais en tout cas, voilà. Donc moi je peux vous parler de tout, c'est difficile pour moi, parce que je n'en ai pas eu la responsabilité. Je pense que c'est vraiment les copains autour de Roland Castro qui peuvent en parler bien. Je peux simplement dire que notre unité, c'est-à-dire la base ouvrière de Flins, était un peu dans VLR la branche ouvriériste. Beaucoup me considéraient, Roland probablement encore aujourd'hui, vous le direz, des dérives pour eux qui étaient encore des dérives du communisme de papa.
Parce que Castro et les autres étaient plutôt du côté de la révolution sexuelle, tout ça.
De Roland, je ne dirais pas ça, pas au début, sûrement pas. Non, de l'analyse, plutôt de la rencontre avec l'analyse, de la rencontre avec Freud, enfin, de façon générale, avec Lacan, par ce biais-là, mais. Roland n'était pas le phare. Il y avait d'autres qui étaient au Calgem et tout ça. Bon, c'est vrai que... Mais bon, l'histoire de VLR est très compliquée, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se prétendent de VLR, alors que je pense qu'on n'a jamais été plus de 50. Enfin, ce qu'on appelait l'Assemblée, Françoise dit 40, moi je dis 50, je sais pas. L'Assemblée qui faisait VLR, qui était le collectif d'impulsion de Vive la Révolution, c'est tout petit. C'est 50 D'accord. personnes, je pense maximum, mais chacun étant responsable d'une action. Donc les gens peuvent dire qu'ils étaient à VLR, mais ils n'avaient pas d'influence sur la direction politique de VLR. direction politique a été très collective.
Oui.
Dans cette assemblée-là de 40 ou 50, de gens qui se connaissaient de façon générale de l'UJCML, hein, qui avaient tous été à l'UJCML ou presque tous, mais qui avaient, pour des raisons diverses, étaient en contradiction et avec l'UJ au moment de mai. Donc chacun avec son expérience, la manière dont lui était. Moi je m'occupais de l'imprimerie, de la sortie du Notre Canard, de servir le peuple, de Garde Rouge, de tout ça. Enfin, moi j'avais une fonction plutôt très très matérielle de sortir les tracts, de sortir les journaux tous les jours, nuit et jour, quand il le fallait.
Ouais.
Donc moi j'étais un peu, j'allais dire à un moment donné, dans ma folie de l'époque, j'avais un peu la même fonction que Staline, au sens pas le Staline de d'après, mais de sortir le matériel de propagande de l'organisation. Que ça soit la cause du peuple, que ça soit autre chose. Bon, et je le faisais, et puis quand j'avais fini ce boulot, j'allais dans les manifs, je faisais, etc. Et j'avais la chance de travailler dans une imprimerie anarcho-syndicaliste, où on n'était pas en grève, qui était la librairie, l'imprimerie.
C'était à Mantes.
Non, là c'était à Paris. Ah ben, en mai 68, c'était à Paris. Moi je suis allé à Mantes en 69.
D'accord.
Qui était. Donc la librairie qui était dans l'imprimerie qui était dans le 20e, j'ai un trou de mémoire là, pour le nom du copain, qui était un ancien de la Voie communiste. Donc, Voie communiste, c'est les communistes en rupture avec le PC pendant la guerre d'Algérie. Donc, je sais pas si vous connaissez l'histoire de l'AVC, de la Voie communiste. Et donc, la Voie Co, il y avait ce copain qui était un imprimeur, qui avait été déjà très utile pendant la guerre d'Algérie, qui avait cette imprimerie qui était rue des Haies dans le 20e. Il faudrait que je retrouve son nom, enfin bon, qui était un camarade difficile,
oui,
mais courageux et généreux, exceptionnel. Et donc son imprimerie a fonctionné en mai 68. On s'est pas mis en grève. Moi j'étais ouvrier à ce moment-là. Et j'étais ouvrier pourquoi ? Pour avoir un vrai certificat de travail me permettant de m'établir à Citroën ou à Renault. Enfin, à l'époque, je ne savais pas si on allait. Donc j'ai travaillé à peu près 8 mois, je crois, dans cette imprimerie. Je ne me rappelle plus très bien le temps.
Oui.
6 ou 8 mois. Pour avoir un vrai certificat de travail, des vrais bulletins de paye, et pour pouvoir ensuite aller dans une des usines où on s'établissait.
Parce qu'ensuite, vous êtes
ensuite, j'étais à Citroën 15e.
Oui.
À Javel. Où j'ai été licencié, bon, évidemment. Mais... je disais, oui, donc en mai 68, voilà, c'est ça. Après, bon, dans notre unité, vous avez ce qui ressort de cette position de la base ouvrière de Flins. On avait eu d'abord, il y avait plusieurs bases ouvrières.
Oui.
On avait commencé à la base ouvrière 15e. Quand j'ai été licencié, on est parti à deux sur Flins. Un copain ouvrier, qui était un ouvrier, qui a toujours été ouvrier, qui était... À l'époque, on faisait des binômes, un intellectuel, un ouvrier.
D'accord.
Donc Jean-Marie Consic, qui était ouvrier, qui a été licencié. On est partis tous les deux à Flins. Lui s'est fait embaucher pour être ouvrier. Il l'a été. Il était vraiment établi dans le sens que c'est un ouvrier professionnel et il a accepté de s'établir comme ouvrier spécialisé pour faire le travail militant. Donc, et puis moi, pour faire le travail de porte. Comme on disait, mais ça c'est exactement la même chose que la tank continua, donc avec toute l'histoire de VLR sur ce travail de porte qui a été très très important et bien, de haute qualité, unitaire, avec plein de gens, enfin, large, démocratique, de masse, un peu hein, ce que je vous disais sur anarcho-syndicaliste avec une influence auprès de centaines de jeunes,
oui.
Et qui a fait que Gorce est venu comme ça nous voir pour savoir ce qu'on faisait. Et il y a d'ailleurs une... J'ai retrouvé quelqu'un qui m'a donné une affiche, une première page de témoignage chrétien qui est vraiment incroyable, du 1er mai de quelle année, 72 ou 73, je sais plus. Je l'ai sur mon ordinateur, cette photo. On voit les deux 1er mai, et on voit enfin, le 1er mai de la CGT, le 1er mai de l'extrême gauche.
Ouais.
Et la photo du 1er mai de l'extrême gauche, c'est la base ouvrière de Flins, la BO, comme on disait à l'époque, avec tous les copains ouvriers qui étaient là à l'époque, évidemment, avec J'y suis, avec d'autres copains. Et donc, c'est vrai que c'était un truc important. Donc, dans VLR, ce que, dans tout, je veux dire, par rapport à tout, la seule chose qu'on a eue, c'était, effectivement, c'est le numéro 13, hein, Françoise. Le truc sur la libération sexuelle du phare 12. C'est la discussion à l'intérieur de notre collectif, de la base ouvrière. On diffusait ce numéro de tout qui parlait de l'homosexualité.
Oui.
Et donc, parce qu'on le vendait à la sortie d'usine, hein, tout.
Oui.
Donc les autres, ils vendaient, ils faisaient pas ça, les autres, ils vendaient. Nous, on vendait tous les numéros de tout à la base ouvrière.
D'accord.
À l'intérieur, on a eu une discussion. Moi, évidemment, qui étais le plus pudique, j'étais assez contre qu'on le diffuse. C'est plutôt les copains ouvriers qui étaient d'accord pour qu'on le diffuse et on l'a diffusé. Alors moi j'étais contre, si on l'a diffusé, et on a rencontré des jeunes intellectuels, des jeunes ouvriers homosexuels. Si on l'a diffusé, mais on l'a pas diffusé à la sortie. On l'a diffusé de la main à l'usine, on l'a pas diffusé, oui tu as raison, on l'a pas diffusé à la sortie, mais il a été diffusé à l'intérieur, et on a eu la surprise de rencontrer des jeunes ouvriers homosexuels. Ça, ce numéro-là, c'est le seul qui nous a... Tout le reste, on le diffusait très bien, c'était notre... Les jeunes le trouvaient très bien, on en vendait pas mal. Voilà. Ce que peut-être... ce qu'a apporté la base ouvrière de Flins à tout, c'est... Non, je sais même plus si dans tout ça existe, l'affaire Dupont. On l'a rendu compte ou on en a rendu compte ou pas, je me rappelle plus. Enfin bon, si vous voulez, il y a deux choses qu'on a amené là à la fin de tout, la fin de la base ouvrière. C'est d'une part une grève qu'on a initiée, une grève de masse, donc sans le PC, sans la CGT, sans personne, où il y a eu, je pense qu'il y a eu, nous on a dit 3000, mais enfin bon, je pense qu'il y a eu plusieurs milliers de salariés qui sont sortis, donc un groupe gauchiste qui arrive à organiser une grève de masse dans une immense usine comme ça, ça n'avait jamais été fait. Donc,
ouais.
Et là, ça nous a conduit à l'autodissolution,
parce que
le succès nous a dépassés, et on était sur le même mot d'ordre que l'État continua, nous sommes tous des délégués, donc complètement anarcho-syndicalistes. Et donc, cette grève, on l'a organisée, très bien, enfin, je crois que nos copains à l'intérieur de l'usine ont fait le boulot, nous aussi, enfin, ça s'est bien fait. Ça, c'est la même chose que l'État continua, hein. C'est du travail de porte... classique, ça n'existe plus, mais que faisait aussi une ouvrière, mais on le faisait beaucoup mieux, parmi les trotskistes, c'est-à-dire être en contact avec les travailleurs. On avait une ligne qu'on appelait bonjour monsieur, bonjour madame. On ne diffusait pas nos tracts comme ça, on disait bonjour, on voyait les gens, on allait les voir dans les cafés, enfin, on connaissait. On avait une Renault à main qu'on avait en voiture, on voyait les gens à 6h du matin, on allait dans les bois, on tirait nos tracts, on les ressortait, quand ils sortaient, on racontait leurs histoires, on faisait de la poésie. C'était des tracts très très différents, évidemment, de toutes les autres organisations qui diffusaient. Ils étaient beaux, il y avait des histoires, il y avait des poèmes, il y avait toutes sortes de choses. Enfin, bon, c'était pas mal, et ils étaient très très populaires, et nous avons... On a fait une enquête, donc vous voyez tout le travail d'enquête sur ce qu'on a appelé le scandale de l'embauche à Flins, qui permettait de vérifier qu'il y avait une bande de salopards dans l'usine qui vendaient les papiers quoi, aux immigrés et les certificats, enfin les capacités d'avoir un permis de travail, et ils vendaient ça l'équivalent de 1000 francs de l'époque. C'était quand même une somme énorme. Et donc, ce scandale de l'embauche, on l'a finalement, par nos contacts avec les travailleurs, et par les travailleurs immigrés en particulier, on a fini par le cerner, on a fait une très très grosse enquête, et on a commencé à donner les noms de tous les mecs qui travaillaient, qui étaient dans la hiérarchie de Renault, qui étaient mouillés dans ce scandale.
Ah ouais, d'accord.
Et donc, comme tout le monde savait que c'était vrai dans l'usine, en tout cas les immigrés le savaient, aussi bien les Africains que les Maghrébins.
C'est l'affaire de Melun.
C'est l'affaire de Melun.
Oui.
Voilà. Et donc ça, c'est les deux événements qui nous ont... qui ont abouti quelque part à ce qu'on arrête. L'un, notre succès sur cette grève, où on a été complètement pris de court par le fait que les ouvriers nous ont demandé de les diriger. Moi, j'étais connu comme le loup blanc et d'autres, pas que moi, enfin des copains à l'intérieur de l'usine et moi, beaucoup à l'extérieur. Et donc, ils nous ont, quand ils sont sortis, là, ils disent, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Oui.
Bon, ils disent, c'est vous les délégués, qu'est-ce qu'on fait? C'est vous qui le savez. Et eux, à ce moment-là, ils nous ont dit non, parce que la base ouvrière, la BO, tout le monde disait la BO à l'usine, la BO, c'est le troisième syndicat. Il y a la CGT, il y a la CFDT et il y a la BO. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où on va?
Oui.
Ben non, ça, on n'avait pas prévu ça. Donc, dans cette histoire de nous sommes tous des délégués, quand on a vu à quel point eux avaient une demande d'organisation ouvrière officielle, licite, et que tout notre travail, il était compris par une masse de jeunes ouvriers français. Hein, c'était ça, jeunes ouvriers français et ouvrières. Et puis de jeunes immigrés de l'usine, y compris nos copains à l'intérieur. On avait un copain narco-syndicaliste qui était un type absolument incroyable. Enfin, on avait des copains quand même dedans qui étaient des vrais agitateurs et des bons. Et on s'est trouvé complètement décontenancé, c'est-à-dire incapable de réagir à cette demande pressante des travailleurs qui étaient là,
d'accord.
Devant nous.
D'accord.
Et avec Thiénot, qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon, j'étais connu à l'époque. Où on va, qu'est-ce qu'on fait? Et heureusement, on est tombé sur un formidable militant de la CFDT, un chrétien, Paul Rousselin, qui nous a sorti de la merde. Parce que, évidemment, les mecs de la CGT nous tapaient dessus, plutôt, à l'époque. Et ce Paul Rousselin a réussi à reprendre la parole derrière nous, sans se couper de nous.
D'accord. Donc,
et a su organiser une délégation, aller voir la direction, poser les revendications, dans un syndicalisme de masse, mais bon, et Paul Rousselin est toujours vivant, je le vois d'ailleurs encore, bien sûr. Et à partir de là, nos copains sont entrés dans la CFDT, ce qui a fait que la CFDT de Flins est restée très proche de l'extrême gauche pendant 20 ans.
Ah, d'accord.
Enfin, d'une extrême gauche libertaire, hein, pas du. Gauche, pas du tout lié aux trotskistes ou tout ça. Bon, enfin, aujourd'hui, ils ont perdu beaucoup d'influence, mais la CFDT de Flins a joué un rôle très important, pas que de notre fait, aussi du fait qu'il y avait un autre établi, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Daniel Richter, qui lui était un ancien de la direction de l'UNEF, qui était ingénieur à Flins et qui a joué un rôle formidable dans l'histoire de la CFDT de Flins. Donc cette conjonction entre ce Daniel Richter après a fait qu'il y a eu poursuite. Hein, lui, il était issu du PSU. Et nos potes sont rentrés, les jeunes immigrés qui travaillent avec nous, comme les quelques jeunes Français qui sont restés, sont rentrés à la CFDT et nous avons arrêté notre travail sur Flins. Et puis le deuxième aspect, c'était la répression suivant l'affaire de Melun. C'est-à-dire que les deux questions se sont conjuguées, puisque à partir de là, évidemment... La situation était plus délicate. Donc, trois d'entre nous donc, étaient en tôle du collectif.
Vous compris?
Non, pas moi, pas moi, pas moi, non, non. Nadia Ringard, Marc Hatzfeld, et troisième, j'ai un trou de mémoire là, à la seconde près. Et voilà, c'est-à-dire comme ça que je suis devenu avocat, c'était pour essayer d'aller les voir à la prison et pouvoir parler avec eux.
Ah oui, c'est la question que j'allais vous demander. C'est pour ça que vous avez...
Oui, c'est ce que je viens de raconter, parce qu'il y a une dame qui m'a demandé pour un article en quoi mai 68 a changé la profession d'avocat. Moi, vraiment, c'est... Si je n'avais pas été en taule, je pense que jamais j'aurais été avocat.
Vous étiez en taule à quel moment?
Moi, pas. Non, ces trois-là,
donc c'était pour les aider.
Les aider, non, les voir.
Les voir.
Les toucher. Aller leur parler.
Parce que vous aviez... un doctorat en droit ou un...
Non, j'avais un troisième cycle, oui, en droit, oui, enfin plus ou moins. J'ai dit, non, mais tout, je ne connaissais pas le droit.
Il faut combien de temps pour...
Non, j'avais une équivalence avec l'économie. J'avais une équivalence de la licence en droit qui me permettait de passer l'examen pour rentrer comme avocat. Et le hasard a fait que cette année-là, c'était l'année 72, il y avait la réforme de la profession d'avocat, ce qui fait que tous les étudiants, moi compris, mais moi ça m'a duré deux jours, on bachotait sur la réforme de la profession d'avocat, et on a eu un sujet de philosophie du droit, j'ai eu 16, mais qui n'avait rien à voir avec le droit, qui était la philosophie. Bon, je suis rentré, je suis devenu avocat comme ça, de façon vraiment inattendue. Et très vite, évidemment, les liaisons que j'avais, puisque c'est comme ça que je me suis inscrit comme avocat dans les Yvelines, puisque c'est là qu'il y avait Flin.
Oui.
Et bah, très vite, toutes les liaisons que j'avais avec les jeunes ouvriers de la région ont fait que le cabinet a démarré tout de suite, très fort, mais dans le droit pénal, que j'ai arrêté très vite pour faire du droit du travail, pour les raisons issues de cette vision qu'il faut rester proche des travailleurs, et donc, bon, c'est devenu un cabinet de droit du travail. Puis pour d'autres raisons qui me seraient un peu long de vous expliquer ici, sur ces bandes de jeunes, comment ça fonctionne, les structures, tout ça, bon, enfin, mais ça, j'ai plus ou moins raconté ça dans les temps modernes. Il y a longtemps, je ne sais pas quand c'est, en 60.
En quelle année?
Je ne sais pas, François, ce qui est une mémoire de... Je ne sais pas, 76, 77, c'est des articles.
Moi, je peux retrouver ça
oui.
Dans la PN.
J'en ai fait deux de suite. L'un qui doit s'appeler... L'un qui raconte l'histoire de la base ouvrière, hein, une sorte de bilan de la base ouvrière. Et l'autre, un peu sur l'établissement dans la vie, et sur comment on voyait les choses à l'époque. Je les ai pas relus, hein. Donc je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Il faudrait peut-être que je les relise pour savoir si c'est complètement débile, ce qui est probable.
Et vous avez aussi défendu Pierre Goldman.
Oui, mais ça c'est pareil, je suis devenu avocat, le hasard a fait que Pierre, sachant que j'étais devenu avocat, et, parce que Pierre a été la première arrestation de Pierre, la première fois que la police l'a arrêté dans sa vie de militant, c'est à la suite d'une bagarre où on était contre les fascistes, ensemble avec Alain Krivine, lui et moi, tous les trois, devant le local de l'Union des étudiants communistes. Et il y a une bande de fascistes d'ordre nouveau qui sont venus attaquer le local. Et les gens qui étaient dedans, les étudiants et le permanent qui était dedans, ils ont eu peur et ils ont fermé le rideau de fer.
D'accord.
Et nous, on est restés tous les trois devant, bloqués. Eux étaient à l'intérieur, ils avaient peur, ils n'ont pas ouvert. Ils nous ont envoyé... Heureusement, on avait des bouteilles de bière qu'on avait sorties. Des caisses de bière de Crodembourg vides. Et donc, on jetait ça tous les deux. Tous les trois, puisqu'il y avait Alain Krivine aussi. Et puis on avait de moins en moins de bouteilles, parce que les autres, ils nous envoyaient une par une dans un petit trou comme ça, mais ils avaient peur de... Je pense ce qui s'est passé dans leur tête. Et finalement, la police est arrivée, et au lieu de courser les fascistes, ils nous sont tombés dessus, et moi, j'ai été arrêté, là. Et Pierre, qui était un type vaillant, très très courageux physiquement, est venu me sortir des mains de la police. Donc j'ai réussi à m'extraire. Enfin, il y avait les types qui me tiraient, la police qui me tirait d'un côté, Pierre et Alain qui me tiraient de l'autre. Et du coup, le pauvre, ils lui sont tombés dessus à lui, parce que lui, il tapait en même temps. Il était il connaissait quand même bien les sports de combat.
Ouais.
Il en faisait tous les jours. Donc, au bout d'un moment, il était plus efficace que moi et Krivine réunis, à lui tout seul, donc ils lui sont tombés dessus et il a été arrêté. C'est sa première et seule arrestation. Quand je suis devenu avocat, il a su par une copine qui était avocate aussi, qui était une de nos vieilles copines pendant la guerre d'Algérie, qui est une fille sublimement belle en plus. Il m'avait pris comme avocate pour parler, enfin, comme il l'a fait pour moi, et elle lui a dit que j'étais avocat, donc il m'a pris comme avocat, mais c'était comme moi je voulais faire avec les copains. C'était pour parler, pour parler oui. Politique, pour discuter, pour lui raconter ce qui se passait dehors, pour plus, beaucoup plus que comme avocat professionnel. Bon, après, évidemment, elle comme moi, on a étudié le dossier, mais ça c'est une autre histoire. Mais son choix n'était pas lié au fait qu'il pensait un avocat professionnellement valable. Il m'avait choisi comme camarade et ami, et pas comme porteur de capacité de défense.
Et une dernière question sur votre trajectoire. Vous êtes resté avocat professionnellement depuis ce moment-là.
Avec cette caractéristique qui ne vous trompera pas, c'est que je n'ai défendu que des salariés dans ma vie. Je n'ai jamais défendu un patron.
D'accord.
Jamais défendu un macro. Parce que je ne vois pas pourquoi, si on ne défend pas les patrons, on va défendre les macs. Et que notre cabinet était un cabinet, il l'est resté jusqu'à ce que je m'en aille à la retraite, que j'ai pris donc le 31 décembre 1974. Je fais aujourd'hui 2004. Et je fais aujourd'hui la même chose, c'est-à-dire je continue à faire le même boulot, mais sans me faire payer. Donc là, je suis dans un rapport à la...
Et est-ce qu'en dehors de ce travail, vous vous êtes impliqué dans d'autres combats, d'autres...
Oui, mais là, dans l'établissement, dans la vie. C'est-à-dire, on a à Mantes-la-Jolie toute une série de copains qui sont restés, sont aujourd'hui regroupés dans un autre collectif, qui avec plein de jeunes, qui a une influence politique très importante sur la région de Mantes. Qui continue, qui participe à la vie. J'ai été élu de l'extrême gauche libertaire, enfin de l'extrême gauche critique de l'Union de la Gauche au conseil municipal avec d'autres, de Mantes-la-Ville, de Mantes-la-Jolie. Donc j'étais dans le conseil municipal d'une municipalité de gauche comme critique de gauche. Et ça suit notre itinéraire sur la région de Mantes et le fait que... Donc moi j'y suis plus beaucoup parce que le boulot d'avocat m'avait pris... m'a bouffé la vie pendant longtemps, mais d'autres de notre collectif de l'époque se sont consacrés à la vie municipale et ils continuent à avoir une influence tout à fait importante à Mantes. Même à Mantes-la-Ville, là, ils sont rentrés au conseil municipal. L'un de nos amis a été candidat aux dernières élections cantonales. Enfin bon, il y a des copains dans les listes municipales. Il reste une trace libertaire. Alors là, pour la plupart, ils sont verts. Enfin, ils ont un collectif qui dépasse les verts, d'ailleurs. Enfin, verts de gauche, quoi. Dans la tendance gauche des verts. Et... Non, il y a une influence qui s'est maintenue de copains qui se sont pas... et de copines, enfin, d'hommes et de femmes. Et y compris avec maintenant des jeunes qui nous ont remplacés, enfin, qui sont très bien. Et qui font plein de choses dans la ville. Donc la trace de parce qu'il y a eu plusieurs sédimentations d'équipes aujourd'hui. Bon, il y a eu des gens qui sont venus de différents groupes. Et aujourd'hui, ceux qui étaient plus ou moins trotskistes, on s'en fout. Ceux qui étaient plus ou moins... il y a eu le groupe Révolution. Et enfin, il y a plein de choses qui sont venues. Tout ça, 68, c'est loin. Depuis, on a fait du chemin.
On a pratiquement terminé.
Qui est de mon syndicat, puisque là, après, il y a eu le syndicat des avocats.
Je pense qu'on peut terminer là. Oui. On a très bien travaillé. Merci énormément, Tiano Gombo.
Très bien. Grimbach.